Merci à John, merci à Marc et merci à vous tous. Je suis heureux de retrouver beaucoup, beaucoup d'amis, dont certains de Shanghai, certains qui en sont revenus, qui reviendront peut-être, et d'autres qui vont, comme moi, y revenir bientôt. Donc, je me sens très à l'aise au milieu de tant d'amis, peut-être aussi intimidé, parce qu'il est parfois plus difficile de parler devant des amis que devant des inconnus. Mais je vais essayer de faire au mieux. Parmi les remerciements, aussi un remerciement tout spécial à l'éditeur, les belles lettres, pour tout le travail fait dans notre domaine depuis longtemps. Évidemment, la collection bibliothèque chinoise dont Marc Kalinowski est l'un des initiateurs et qui a, j'allais dire, totalement renouvelé le champ de la connaissance des classiques chinois. Et puis, ils ont une table de librairie, et puis quoi, ils sont toujours engagés dans un travail économiquement très difficile de continuer à maintenir, j'allais dire, une tradition de connaissance des classiques, pas seulement occidentaux, mais justement d'un ensemble de traditions pour les mettre en dialogue et en musique. Et c'est un peu dans cette tradition que mon livre s'insère, et donc au début de cette présentation, qui sera courte, j'ai promis à John de tenir dans une demi-heure, mais je lui ai dit ne m'interromps pas avant 40 minutes. Mais en revanche, interromps-moi à 40 minutes. Voilà. Donc on verra si ça se passe comme ça. Voilà. Donc, avant de parler de la Chine, je vais parler des classiques et du fait de lire, tout simplement. Donc ce n'est pas un livre qui se veut un livre pour initier, ce n'est pas un livre qui veut parler uniquement de la Chine, mais qui veut poser la question comment lire les classiques, et en fin de compte, comment lire les classiques chinois. Et je crois que pour répondre de manière intéressante à la question comment lire les classiques chinois, il faut procéder par étapes. Il faut se demander ce que c'est, qu'est-ce que lire, une opération dont nous avons tellement l'habitude que nous ne réfléchissons peut-être pas justement sur la façon dont nous lisons, les a priori sur lesquels nous lisons, les grilles par lesquelles nous lisons. Et puis, comment lire cette chose étrange qu'on appelle les classiques, une réalité textuelle un peu floue, mais pourtant présente dans notre esprit. Un classique, c'est un peu difficile à définir, mais lorsqu'on en voit un, on sait que c'en est un. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, les classiques qui s'imposent à nous, si vous voulez, et puis parmi ces classiques, il y a les classiques chinois. Lire les classiques chinois, évidemment, ça pose aussi des questions spécifiques, justement celles des questions que posent les classiques chinois par rapport à d'autres traditions. Est-ce qu'ils posent les mêmes questions, par exemple, que les classiques grecs, indiens ou la Bible? Est-ce qu'ils posent des questions différentes? Où est la différence, si elle se trouve? Et plus généralement, est-ce que l'expérience de lecture, je vais beaucoup parler d'expérience de lecture ce soir, apporte-t-elle des lumières particulières quant à la réflexion générale sur la façon d'apporter un canon textuel? Ça, c'est ma première observation. Ma seconde observation, c'est que bien sûr, les classiques chinois sont des textes et des textes écrits. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rapport à l'oralité qui était présent et qui s'est maintenu. Je ne fais pas une présentation simpliste comme quoi c'était d'abord des textes récités ou parlés ou des dialogues et qu'ensuite ils étaient écrits, quoique dans certains cas ce soit en partie le cas, mais le fait simplement qu'il y a une sorte de circulation entre l'écrit et l'oral dans toutes les civilisations, qui est beaucoup plus forte qu'on peut penser, et que d'ailleurs renouvelle aujourd'hui le fait que le livre audio ait conquis une audience qui, à mon avis, est positive, c'est-à-dire on entend le livre, on ne se contente pas de le lire, on l'entend. Et au fond, il faudrait lire comme en entendant. Voilà, il faut prêter l'oreille au texte. Du reste, on peut suggérer que les textes chinois, ou au moins certains textes chinois, ont été composés de telle façon à ce que l'acte corporel de leur mémorisation et de leur lecture à voix haute engage dans l'expérience dont parle leur contenu. Voilà. Dans le contexte du Souwen, donc un texte médical bien connu, Claude Lard, le directeur de l'Institut de Richie que n'a pas cité John, le premier directeur de l'Institut Richie de Paris, décèle avec raison un exercice presque thérapeutique d'exercice des souffles proposé à celui qu'il récite. Le texte classique, c'est une expression du souffle vital. Le souffle contient l'écoulement du discours en même temps qu'il le déforme, pour permettre l'articulation élémentaire des caractères qui organise la proposition un tout intelligible. Claude Lard va plus loin en opposant les caractères forts et les caractères faibles, si vous voulez, ceux chargés de sens et ceux qui ont un rôle de coordination grammaticale. Donc il y a un rythme de la phrase, du reste évident, qui au fond, dit-il, fraye la voie à la main qui abolit l'anomalie et opère la guérison. En d'autres termes, lire et entendre un texte chinois, c'est déjà un acte thérapeutique. Ce qui peut d'ailleurs le reprocher des textes grecs qui avaient aussi le but de former et guérir l'âme par certains côtés. Hein. Donc cette piste thérapeutique, j'allais dire, on lit un texte pour se guérir de quelque chose, je le propose aussi, à la fois pour les classiques chinois et puis pour l'ensemble de nos classiques. Voilà. Comme je rappelle le fait qu'un texte écrit a une dimension d'oralité et qu'un texte oral ou un dialogue, tel que les dialogues de Socrate ou de Confucius, ont vocation à trouver place écrite. Il y a, si vous voulez, une bipolarité oral-écrit. Ils se pensent l'un par rapport à l'autre. Voilà. Même dans les civilisations totalement orales, il y a une place pour l'écrit qui est montré par exemple par les scarifications sur le corps. Il faut inscrire des signes dans le corps. Il n'y a pas une civilisation qui serait simplement orale. On inscrit toujours des signes, et ces signes sont corporels. Et la Chine, à mon avis, garde une conscience très forte de cela. Enfin, puisque nous sommes au Centre Sèvres, sur ce rapport écrit-oral, je vais citer un philosophe jésuite qui a longtemps travaillé ici et que j'ai aimé particulièrement, François Marty, qui écrit « Tout texte est transmission reçue dans le silence de l'écoute. Le bon lecteur tend l'oreille. Un texte se lit aussi avec l'oreille. Lire comme on écoute prend le corps tout entier. » Donc, si vous voulez, on voit et on entend, et plus profondément, on sent et on goûte. Voilà, quelque chose comme ça. Il y a un vers de Li Bai qui dit « Je regarde cette peinture de bambou et ça me donne envie de goûter les pousses de bambou. » Voilà, il y a un passage du voir au goût. Voilà. Donc, je propose un mode de lecture, comment lire les classiques ou comment lire tout simplement avec tout son corps, avec tout son sens. Et comme on écoute, dans l'attention la plus profonde que ce soit, quelqu'un qui se confie à vous. Voilà un point de départ qui n'est peut-être pas scientifique ou sionologique au départ, mais qui peut nous aider, j'allais dire tout simplement, à nous familiariser avec les classiques chinois, au lieu de les lire comme on regarderait un ovni dont nous ne détiendrons pas le code, abordons-les comme des textes qui veulent à la fois nous proposer une expérience et peut-être nous guérir de quelque chose. Voilà un point sur lequel j'insisterai. Restons maintenant sur le terme de classique. Alors, c'est un mot piégé. Et on a raison, d'une certaine façon, de critiquer les classiques. Parce que la classe, en latin, eh bien, c'est d'abord la classe militaire. Et oui, faire ses classes, être hors classe, un classique et ainsi de suite, tout ça, ça a la même racine. Voilà. Une classe, c'est d'abord un groupe d'hommes, appelés au service militaire à un certain donné, et puis il y a la première classe, enfin il y a les gens qui sortent de l'ordinaire, et puis un classicus scriptor, en latin c'est un auteur distingué, qui n'est pas commun. Oui, la classe sociale, ça a aussi quelque chose à voir avec le classique. C'est vrai. Donc, il y a toute cette aura du terme classique qui peut expliquer qu'aujourd'hui, on critique, voire on déconstruise l'idée d'un classique bien établi au fil des siècles occidentaux, composé presque exclusivement d'hommes, en général sortis des classes les plus aisées de la société, etc. Il y a exactement le même phénomène en Chine. Donc c'est pas un problème occidental. Mais enfin, oui, on lit pas les classiques impunément. Et je reviendrai à cela en parlant justement des modes de lecture par lesquels on aborde les classiques chinois comme à d'autres. Ce qui est amusant, c'est que le terme chinois, qui correspond à peu près au terme classique, le terme jing, est extrêmement proche des connotations du classicus latin. Vous allez voir jusqu'à quel point il est proche. Donc le texte désigne, le terme djing désigne d'abord les textes classiques en tant qu'il s'applique au fil qui joint un texte. Les lattes de bambou utilisées, donc un fil lie ensemble des lattes de bambou et plus loin il va désigner la chaîne même d'un tissu. Voilà. De façon plus significative, le caractère renvoie aussi à toutes les régularités. Les régularités qui organisent le cosmos, qui organisent le corps et le rythme du corps, donc les méridiens, et puis à partir de ça, la structure sociale et la structure culturelle. Voilà. Les régularités, c'est le jing. Ça ordonne. Hein. Ça permet aussi la circulation, mais ça ordonne. Et par ailleurs, le sinologue missionnaire James Legge a noté en 83, lui je crois pour la première fois, que le texte latin « textus » et le caractère « jing » renvoient étymologiquement à l'idée de « penser, tisser en écrit ». Oui, en français comme en anglais, un texte et un textile, c'est la même origine. C'est la même origine. De même, le « jing », eh bien, c'est la trame du métier à tisser et c'est le classique. Donc un classique ou un jing, ce sont des pensées tissées en écrit. Et c'est d'abord comme ça qu'on va les organiser. C'est important, ça veut dire qu'il y a peut-être une idée qu'on trouve aussi bien du reste en Occident qu'en Chine, mais qui est plus affirmée qu'en Chine, c'est que le jing régule, ordonne. Voilà. Ce qu'ils opposent au jing, essentiellement, c'est le za. C'est ce qui est bigarré, biscornu, non organisé, parfois un peu monstrueux. Voilà. Donc le jing est à la fois de classe et ordonnateur. De même, un classique chez nous, ben, ça s'oppose à du baroque, par exemple. C'est bien ce qui organise la pensée, ça vous donne une norme, un modèle. Hein, voilà. Et c'est avec le canon. Le canon, comme vous le savez en grec, c'est la règle du charpentier. Donc tout ça va ensemble. Le canon, le jing, le classique. Voilà. Comme on le sait, du reste, plus encore qu'en Occident, la détermination du canon et donc de l'ensemble des classiques, le canon en Chine, c'est tout simplement les classiques reconnus comme tels par l'État, fera donc l'objet de rivalités sociales, culturelles, politiques. Voilà. Alors, évidemment, on essaiera toujours de déterminer des jing alternatives. Les classes populaires, par la littérature divinatoire, vont essayer d'avoir leur jing. Et puis, il va y avoir un jing bouddhiste et un jing taoïste. Mais c'est néanmoins le jing étatique qui s'impose, et d'autant plus qu'il reste toujours très limité dans son corpus. On s'arrête maximum à 13 textes, pas très long dans l'ensemble. Tandis que le jing taoïste, il n'en arrête pas de croître, et à 42 volumes, on n'a toujours pas fini. Voilà. Donc, voilà, c'est ça le jing. Alors, dans mon livre, évidemment, je décris en détail cette structure des classiques, cette structure, à la fois cette histoire et cette composition des textes. Là, je ne réserve pas le terme au jing étatique. Je m'intéresse aux textes chinois anciens, dont les premières traces apparaissent siècle avant notre ère, et dont la composition finale oscille entre le deuxième siècle avant et le deuxième siècle après notre ère, avec parfois des petites modifications éditoriales supplémentaires. Ça entraîne donc une histoire des textes particulièrement compliquée, mais ça ne veut pas dire que ça détruit tout ce qu'on savait. Ça veut dire par certains côtés parfois que ça la confirme et parfois que ça l'enrichit, et Marc nous parlera longuement de cela. C'est-à-dire il y a des textes à prendre dans leur historicité. J'essaie de montrer aussi qu'il se développe par rapport à un trépied, c'est-à-dire que le rôle du livre des documents, du livre des odes et du livre des mutations crée une sorte de trépied, oui, il n'y a pas d'autre mot, sur lequel différents embranchements ou possibilités vont pouvoir s'embrancher. Avec un livre des documents qui donne des exemples, qui est un livre de discours exemplaires qui va générer d'autres discours. Un livre des odes qui, lui, parle plutôt de la performativité de l'écrit, ou même du texte en général. D'abord du poème récité et du rite, et à partir du poème et du rite, eh bien, du texte qui en sort. C'est-à-dire que dire, célébrer, écrire quelque chose, c'est faire quelque chose qui a un impact sur la réalité. Voilà. Et ça, c'est ce que nous donne à voir et entendre le livre des odes, pour résumer un très grand père. Et évidemment, un livre d'imitation qui nous donne une clé des phénomènes, qu'ils soient cosmiques, sociaux et d'autres. C'est-à-dire, le livre des mutations est moins un texte qu'un source code, on dirait aujourd'hui, quelque chose qui va produire du texte. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire, et puis à partir de là, eh bien, je n'ai pas le temps d'entrer aujourd'hui dans les ramifications, si je ne veux pas me faire interrompre trop tôt par John. Donc je passe à la partie qui va être l'essentiel de ma présentation aujourd'hui, parce que je vais mettre quelques exemples. Comment lire les classiques, et plus spécialement les classiques chinois. Donc je vais parler en général de comment lire les classiques, et de temps en temps je vais l'illustrer en prenant tel ou tel classique chinois. Eh bien, très curieusement, nous lisons tous d'abord les classiques, non pas purement, mais par une stratégie donnée. Pas forcément la nôtre, mais celle qui nous est imposée. Quand on nous fait lire du Molière à l'école, on nous donne une idée de ce qu'était, je retarde certainement, le beau français, le bon français. Il y a évidemment des normes morales qui nous sont données. Dans la Chine, c'est l'identité chinoise même qui est transmise par la culture des classiques. Ou ce qu'est la piété filiale, ou un modèle, certains modèles rigidifiés de la pensée chinoise. En Inde, les petits Indiens connaissent les grands récits de la mythologie indienne et se forment un univers mental avant même d'avoir lu quelques textes que ce soit, et ainsi de suite. Donc, le classique fait quelque chose, nous modèle. Et la plupart du temps, nous n'en avons même pas conscience, ou nous en prenons conscience très tard. Mais lorsque nous en prenons conscience, nous faisons un pas de côté et nous essayons de faire quelque chose, nous essayons de lire le texte purement, pour lui-même. Seulement voilà, l'utopie du texte qu'on lit pour lui-même, aucun texte ne se lit pour lui-même. Tout texte se lit dans une résonance avec le lecteur, tout texte se lit dans une époque, tout texte se lit par la façon dont nous formulons la question qui est posée. Or, lorsque nous lisons les classiques chinois, nous ne voyons même pas quelle est la question posée. De quoi parle le Laozi ? De tout et donc de rien, serions-nous tentés à dire. Il donne des clés qui s'appliquent à tous les ordres de phénomènes. Donc à un moment donné, il nous faut aussi sortir, pardonnez-moi d'abroger, tout ça bien évidemment, une minute de publicité est exposée bien plus en détail dans le livre, il nous faut sortir de l'utopie de la lecture pure. Et alors là, on est dans un troisième mode de lecture que j'appelle la lecture symptomale ou symptomatique. Et pour donner enfin un exemple tiré des classiques chinois, voici celui que je vais utiliser tout de suite. Le grand sinologue français Marcel Granet, à un moment donné, étudie un texte assez obscur, une histoire tarabiscotée qui raconte que Confucius, évidemment un Confucius, assez légendaire, comme c'est souvent le cas au fur et à mesure que le personnage est construit, se trouve avec le roi de Lou, que le prince de Lou est en train de conclure un traité de réconciliation avec un suzerain voisin qui a amené pour fêter ça des musiciens et des danseurs. Mais les musiciens et les danseurs sont en fait traîtres qui ont pour but d'assassiner le prince de Lou. Voilà. Et Confucius démasque le complot et fait écarteler les musiciens et les danseurs aux quatre coins du terreau sacrificiel, voilà, du terrain sacrificiel. Et Granet montre assez facilement que ça n'est pas un texte historique, que ça n'entend pas raconter un texte historique. Il dit, ça décrit un schème, si vous voulez, comme on en trouve dans l'inconscient. Ce dont ça parle, c'est d'une racine sacrificielle essentielle de la Chine ancienne qui est qu'on établit un royaume, qu'on ne peut fonder la légitimité, la sacralité de la possession d'un royaume qu'en ayant un sacrifice humain performé à partir, bien entendu, du milieu. Voilà. C'est la lecture de Granet. Hein. Granet est un structuraliste total, donc on peut le critiquer. Hein. Il a une critique très vide d'une lecture proprement historique. Mais enfin, ça a sa force. Granet, le thérapeute, si vous voulez. Dans le texte, il entend autre chose. Dans le texte, il entend autre chose. Et nous sommes parfaitement fondés quand nous lisons un texte à nous dire, au fond, de quoi ça parle ? Ça a l'air de parler de ça, mais je pressens que derrière ça, il y a autre chose à l'œuvre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler très très rapidement la lecture symptomale. Voilà. Donc, Granet parle de schème. Tout texte va vous livrer un schème. Voilà. Il est juste après Freud. Je ne pense pas qu'il ait jamais lu. C'était pas du tout son genre de beauté, mais je pense qu'il nous parle de quelque chose de très similaire, si vous voulez. Voilà. Alors, quatrième mode de lecture, de la façon de lire un texte. Et là, on est à l'opposé. On va faire une délecture. On va déconstruire le texte. Et ça, c'est la tradition ô combien honorée de l'histoire des formes et des sources, qui a pris sa grande force au XIXe siècle avec une certaine critique biblique. Donc l'idée, c'est de dire qu'un texte est construit sur un processus très long, tout cela est vrai, hein, et ce qui est peut-être moins vrai, sur des micro-unités. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un bricolage, la plupart du temps sans intentionnalité, suivant une histoire très tourmentée de rédaction. Et puis à la fin, on arrive à un texte. Mais ce qui est amusant pour un savant, c'est de montrer comment ça s'est peu à peu assemblé, si vous voulez. Et une fois encore, c'est un texte, mais ça n'est plus un texte. Voilà, ça n'est pas un texte, finalement. C'est le résultat d'un processus historique largement incontrôlé. Voilà. Alors, il y a un bibliste honorablement Roland Méné, qui est à Rome, qui vient de passer à Lyon, qui me disait comme ça, voilà, ben, les spécialistes du prophète Amos réussissent à démontrer que dans le livre d'Amos, il y a trois phrases qu'on peut peut-être attribuer à Amos. On se demande pourquoi les générations suivantes ont retourné le malheureux prophète. Voilà. Il y a du vrai là-dedans. Enfin, il y a du vrai dans les deux. Il y a du vrai dans le fait que le texte est un résultat historique, et puis il y a du vrai également dans le fait qu'une déconstruction excessive finit Paul. Pour le dire assez simplement, voilà. Alors, c'est pas tout à fait récent, hein. C'est maintenant c'est une tendance dominante des études chinoises depuis longtemps, mais c'est venu bien après les écrits bibliques ou les critiques bibliques, mais sur le modèle des critiques bibliques, hein. Ça commence dans tous les cas avec des Hollandais et des Allemands protestants, voilà. Et puis, peu à peu, ça se développe, voilà. Alors, quelquefois, ça fait faire de grosses erreurs. Par exemple, il y avait un sinologue britannique très connu, Giles, qui était un esprit hypercritique. C'est lui qui attaquait tout le temps les traductions de Legg, parfois pour des bonnes raisons, parfois c'était plus douteux. Et Giles, donc on est vers 1910, je pense, prétend toujours que Lao Tzu, manifestement, est un fake. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de Lao Tzu et que ça a été un texte créé par l'église taoïste vers le 2e ou 3e siècle de notre ère. Alors, le malheureux n'a pas eu de chance, parce que le texte qu'on retrouve le plus souvent et de très loin dans les fouilles archéologiques, c'est telle ou telle version de ce qu'on appelle le Lao Tzu. En tout cas, un texte extrêmement proche de ce qu'est la version reçue du Lao Tzu, ou d'une partie de ce texte, même si c'est pas dans le même ordre, etc., etc. Donc, s'il y a un texte dont l'existence historique, ou dont une filiation historique, hein, voilà, est extrêmement avérée, c'est celle du Lao Tzu. En même temps, s'il y a un texte sur lequel on peut déployer l'étude des formes et des sources, c'est bien le Lao Tzu, parce que nous en avons plusieurs versions, ou semi-versions. Mais comment les organiser? Alors là, quel sens donner à ça? Alors là, je passe à le cinquième mode de lecture. Non, pardon. Je passe d'abord à un mode de lecture intermédiaire et après, je vais revenir à la question du langage. Traditionnellement, en Chine, on ne lit pas les textes tout seul. On les lit au travers des commentateurs. Voilà. Et on peut dire qu'il est très difficile parfois de séparer le texte de son commentaire, parce qu'un texte est parfois déjà, et même très souvent, un commentaire. Et ça, dès le début. Je vous cite un extrait des Analectes. Voilà. Donc, Analectes 3.8. Ce Xia dit à Confucius, on lit dans le livre des Odes, un sourire plisse les coins de sa bouche, ses beaux yeux et blanc. Un front blanc reçoit une peinture de diverses couleurs. Que signifient ces paroles? Donc le livre des Odes, qui est un livre très souvent plein d'allusions érotiques, nous dresse un portrait extrêmement aguichant d'une beauté qui s'est fardée, voilà tout. Mais enfin, c'est pas très très satisfaisant pour notre Confucius, ni pour notre Tzu Xia. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, hein? Voilà. Et avant de peindre, il faut un fond blanc. Voilà, avant de peindre, il faut un fond blanc. Ce chien reprit, les rites viennent donc après. Le maître dit, ah, on peut s'entretenir avec toi. À présent, je puis te parler des autres. Voilà. C'est un très beau texte, et ce que dit Confucius a du sens. C'est-à-dire, il dit, ben oui, on n'applique pas les rites, on n'enseigne pas les gens sur n'importe quoi. Il faut d'abord aller à la nature. Il faut effectivement avoir une conscience juste ou une appréhension juste de ce qu'est la nature ou l'intérieur. Par exemple, le gène, l'empathie. Voilà. Et sur le gène, le rite va pouvoir se développer. Mais on ne commence pas par appliquer artificiellement les rites sur un matériau qu'on ne connaît ni n'apprécie pas. C'est enfin un acte de confiance. En tout cas, c'est mon interprétation. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce texte. Donc c'est un commentaire sur un commentaire sur un commentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte même des Analectes, Dieu sait que c'est un texte fondateur, est déjà un commentaire. C'est-à-dire qu'il prend les odes et qu'il travaille dessus. Voilà. Et ce travail de passage du texte des commentaires est constant dans l'histoire chinoise. Han Cheng dit même qu'il n'y a pas de classique avant qu'il y ait un commentaire. C'est le commentaire qui fait le classique. Et c'est parfaitement vrai, hein, par bien des côtés. Voilà. Donc, le passage par les commentaires comme note de lecture, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ça redevient à la mode et avec d'excellents résultats dans les études sinologiques actuelles. Par exemple, il y a un sinologue allemand, Rudolf Wagner, qui lit le Lao Tzu sur 3 très gros volumes à travers du commentaire qu'en fait Wang Bi au deuxième, troisième siècle de notre ère. Et Rudolf Wagner donc dit trouver le sens du Lao Tzu au travers du commentaire de Wang Bi. Voilà. Et effectivement, il montre que Wang Bi, du reste, comprend très bien la structure du texte, qu'il trouve circulaire. J'y reviendrai dans le mode de lecture qui suit juste après. Et aussi que Wang Bi a trouvé l'analogie fondamentale du Lao Tzu, c'est-à-dire que le souverain doit être par rapport au peuple comme le Tao est par rapport au cosmos. Donc c'est une équivalence de l'ordre cosmique et politique. Il y a d'abord le Tao qui nous donne, qui donc sourd, ne s'impose pas, travaille dans le monde, fournit, j'allais dire, l'énergie vitale qui permet à la vertu ou à la puissance des choses de fleurir, et que c'est sur ce modèle-là et sur ce modèle seulement que le Wang, que le roi, que le prince doit penser et imaginer son action. Donc l'aspect cosmologique, si on peut dire, et politique du Lao Tzu sont inséparables, hein, qui se commandent toujours l'un l'autre. Voilà. Mais l'intérêt, c'est que Rudolf Wagner dit, on peut comprendre ça qu'en passant par Wang Bi. Voilà. Alors c'est vrai, ça n'est pas vrai, mais ça montre qu'on apprend toujours beaucoup en voulant pas lire les textes pour eux-mêmes et en se disant, au fond, comment les ont lus 2000 ans de lecteurs chinois. Voilà. Pas forcément pour s'arrêter à ces lectures, mais pour abandonner l'utopie que nous allons les comprendre de nouveau totalement, comme ça, comme s'ils n'avaient pas été lus pendant 2000 ans, si vous voulez. Voilà. J'ai encore 2 modes de lecture, c'est tout. Voilà. Alors, le 6e mode de lecture, vous voyez, je me sors de ces modes de lecture que je développe dans le chapitre 2 de mon livre, simplement pour vous donner des exemples de la façon dont on peut interpréter ou lire de façon du reste différente, plurielle, comme vous le voyez, cet énorme massif que je n'ai pas le temps de détailler ce soir, que j'appelle, disons, les textes chinois anciens, c'est-à-dire ceux qui ont fini d'être édités au cours de la dynastie Han. Voilà. Le 6e mode de lecture, c'est ce qu'on peut appeler un mode de lecture structural ou de rhétorique structurale. Alors, c'est le 6e et le 7e, c'est ceux que j'utilise avec prédilection, ou ceux avec lesquels je fais le plus de confiance. Voilà. C'est de se dire, un texte, à l'époque, est une denrée rare, par son matériau, par des quantités de choses. Il est pensé longuement, il est élaboré longuement, ou même, pour le dire autrement et pour éviter tout malentendu, chaque version de ce texte est pensée lentement. C'est-à-dire qu'à la rigueur, quand on fait l'histoire des textes, l'histoire du Lao Tzu, par exemple, il faut penser chaque version qu'on trouve dans les limites de la reconstitution archéologique, limites parfois extrêmement violentes. Les lattes de bambou se mélangent, il y a du matériau pourri, il y a des voleurs qui sont passés, enfin tout ce qu'on veut. Mais enfin, dans ces limites-là, on a donc plusieurs versions des textes. Et chaque version a sa logique, est organisée en fonction d'un principe. Voilà. Le problème est de savoir si ces principes sont semblables à l'époque, si vous voulez, si l'ensemble des classiques chinois qui se développent, alors pas à partir du 6e, mais disons à partir du 5e ou 4e siècle, jusqu'au 1er siècle avant ou après notre ère, obéissent à des modèles de composition similaires. Moi, je crois qu'ils sont similaires, mais avec des variantes. Alors, je crois qu'il y a deux mécanismes fondamentaux. Je me résume à grands traits, je peux m'attirer des attaques, non pas violentes, mais féroces, mais j'ose le faire, qu'il y a deux grands mécanismes régissent la composition des textes. Le premier, c'est celui qu'on trouve dans la grande majorité des civilisations antiques et parfois après, qui est la composition en cercle, qui est bien connue. Il y a eu un très beau livre de Mary Douglas, remarquable anthropologue, qui s'appelle « Thinking in Circles »,« Penser en cercle », 2007, à l'université de Yale, qui travaille dans plusieurs civilisations et qui montre très bien qu'un texte s'organise à partir de son centre. Il recèle un texte construit sur ce modèle-là, on s'entend. Il y a une énigme au centre, il y a quelque chose d'important qui est dit au centre, et à partir de là, il y a une chose qui est dit en A, en B, en C, etc. On arrive au centre, où une chose n'est dit qu'une fois, avant que la même chose soit dite de façon parallèle, donc avec une variation, mais qui nous renvoie à C', B', A'. Voilà. Le prologue de Jean est bâti comme ça, etc., etc. Le chapitre sur le bouclier d'Homère dans l'Iliade, et ainsi de suite, pour parler d'exemples bien connus qui ont été analysés très en détail. Voilà. Je pense que dans nombre de textes chinois, on retrouve en gros cette forme. Le chiasme, si vous voulez, étendu à une échelle extrêmement importante. Mais il y a des caractéristiques chinoises qui vont compliquer et enrichir fortement ce modèle. Il y a par exemple la numérologie, les valeurs qualitatives attachées au nombre, qui font qu'un chapitre 3, c'est un chapitre 3. Ça doit parler du 3. Or le 3, c'est un principe cosmologique. Je ne parle même pas du chapitre 1. Alors là, c'est le début du 2 du Lao Tzu. Il vous parle de la différenciation. On dit le mal, on dit le bien, et voici surgir le mal. C'est le grand thème du chapitre 2 du Lao Tzu. Ça se différencie, le 1 commence à s'ouvrir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a une valeur qualitative des nombres. Le chapitre 5 sera toujours un chapitre. Il y a 1, 2. Dans la série décimale, le 5 est le chapitre central. Donc dans le Huainanzi, par exemple, dont Marc est le spécialiste ici, le chapitre 5 de la première partie, parce que pour moi il y a deux parties, va parler du ritualisme, de celui qui accomplit le rituel, qui se situe au centre du monde. Il y a 5 saisons, par exemple, hein, donc tout est découpé en ça. Et le chapitre 15, qui lui fait écho, parce qu'il y a 10 chapitres et 10 chapitres, va parler du rôle du général. Mais le général est un autre ritualiste, j'allais dire. Il va aussi assurer l'ordre d'une telle façon. Et quand on regarde en détail, en gros, tous les chapitres fonctionnent comme ça. Voilà. Alors il y a aussi le faible et le fort, le yin et le yang, qui vont faire qu'il y a des chapitres forts et des chapitres faibles. Il y a la valeur attachée au nombre. Il y a des constructions, par exemple, souvent, dans l'époque des états combattants. Parce que le 7 à l'époque est vu comme un chiffre d'aboutissement. C'est le Xiaoyang, le Yang qui surgit. Voilà. Le Mengzi est bâti. Le Mencius est bâti en 2 séries de 7. Ou 7 séries de 2, comme on veut. Voilà. Les 7 chapitres intérieurs du Chuangzi, exactement la même chose, du moins à mon avis, sont 7. Et ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, Chuangzi construit tout autour de ce chiffre 7 pour le critiquer. Chuangzi est un anticosmologique. Donc, il y a 7 chapitres, mais dans le 7e paragraphe du 7e chapitre, Chuangzi vous explique qu'en faisant cette ouverture, vous avez tué chaos. C'est-à-dire qu'en divisant, vous avez tué le 1. Voilà. Donc, Chuangzi se sert de la cosmologie et de la numérologie pour tuer la numérologie, pour critiquer la numérologie et la cosmologie. Mais Chuangzi connaît parfaitement les valeurs attachées au nombre. Hein, voilà. Et ainsi de suite. Enfin, je pourrais développer ça longuement. Mais il y a tout un système de construction des textes qui, à mon avis, reste à rechercher de bien plus près, qui a un immense avantage et qui nous permet d'entrer en dialogue avec des classiques d'autres civilisations non par le contenu, mais par la structure, c'est-à-dire par les schèmes mentaux qui régissent jusqu'à un certain point l'esprit humain, ou du moins qui sont l'un des choix. Vous savez, depuis 18 ans, et quand je lisais Lévi-Strauss, je fais un structuralisme invétéré, et je n'arrive pas à m'en dépêtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne, par quelle structure, par quelle chaîne. Et je crois que les classiques chinois étaient organisés quand même de cette façon-là. Bon, il y aurait beaucoup à nuancer, à ajouter, je ne le ferai pas, et j'irai directement à la dernière façon de lire les textes que j'ai déjà ouverture, que j'appelle la lecture expérientielle. Voilà. La lecture ou le mode expérientiel est essentiel dans le classique chinois, parce que le classique chinois fonctionne, comme nous le savons bien, par anecdotes, paraboles, qui vont laisser l'histoire ou l'enseignement ouvert. Il y a une ouverture extraordinaire des classiques chinois pour permettre à l'auteur de se l'approprier selon son expérience propre. Alors, je prends deux exemples. D'abord, d'un auteur mal aimé, à mon avis. Aujourd'hui, mal aimé, Massus. Voilà. Et il y a des choses très belles dans Massus, justement, parce que c'est un artiste extraordinaire lorsqu'il s'agit de faire sentir au lecteur quelque chose qui va le convaincre par son expérience et non pas par un raisonnement d'ordre logique. Massus, les exemples que je vais utiliser sont très connus, hein, tout ça fait partie de la vulgate texte chinois, mais on ne réfléchit pas assez sur le mécanisme que Massus met en œuvre. Massus affirme que la nature humaine est fondamentalement bonne, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont bons, elle peut être viciée, mais au départ, dans son fond, elle est bonne et n'en démord pas. Voilà. Et alors, un exemple qu'il donne, il dit « supposer que l'un d'entre nous voit un enfant penché sur la margelle d'un puits, et ajoute Massus, qui veut éliminer toutes les possibilités de sophisterie, qu'il ne connaisse même pas ses parents. Eh bien, il va manifestement bondir pour sauver l'enfant du danger. C'est-à-dire qu'il aura eu un enfant tombé dans le puits, et ce flash va atteindre comme une aiguille, si vous voulez, d'acupuncture, le fond bon de sa nature. Il ne peut pas ne pas sauver l'enfant du danger. Et le fait qu'il connaisse ou pas les parents, qu'il peut attendre au moins une récompense, n'a aucun rôle dans l'histoire. Il y a le fond de sa nature qui va se dévoiler. Voilà. Hein ? Un autre exemple tiré de Mencius, de façon, sur un cas d'étude tout à fait différent. Voilà. J'aime le poisson, mais j'aime aussi les pattes d'ours. Si je peux avoir les deux, je laisse le poisson et je prends les pattes d'ours. J'aime la vie, mais j'aime aussi le sens moral, ou la justice. Hein. Si je ne peux avoir les deux, je renonce à la vie pour garder la justice. Il est quelque chose que l'homme aime plus que la vie, quelque chose qu'il redoute plus que la mort. Les sages ne sont pas les seuls à posséder cet esprit-là. C'est un bien commun à tous. Cet optimisme extraordinaire de Massus revient. C'est un bien commun à tous. Mais seuls les sages ne le perdent jamais. Vous l'avez compris, l'ours, c'est un plat de gourmet. C'est le caviar, si vous voulez. C'est le caviar du temps. Donc si on m'offre, dans une réception, un plat de poisson grillé pêché dans la rivière et des pâtes d'ours, je dis merci, je prendrai les pâtes d'ours. Si je suis obligé, si vous voulez, pâtes d'ours ou poisson. Je suis poli, je ne vais pas prendre les deux, je prends la patte d'ours. Voilà. Il y a un sens qui me dirige vers ce que j'aime. C'est une familiarisation du lecteur ou de l'auditeur, c'est une façon de le diriger vers quelque chose à quoi il va forcément acquiescer, c'est son expérience. Mais il le familiarise à une idée beaucoup plus dure, c'est « regardez en vous, vous aimez la justice plus que la vie ». Alors évidemment, ça peut être beaucoup plus controversé. Mais par l'expérience qu'il va donner, il va amener le lecteur à se dire au fond qu'est-ce que j'aime le plus. Et si je l'aime le plus, dans le choix que j'ai à faire, je le ferai en fonction de ça. Si je suis quelqu'un conséquent avec lui-même, qu'est-ce que je préfère ? Attention, c'est une question de préférence, c'est un discernement. Hein ? Voilà, Saint Ignace dit toujours que le discernement c'est entre le bon et le meilleur, c'est pas entre le bon et le mal. Entre le bon et le mal, il n'y a pas de discernement à faire. Bien sûr que je prends le bon. entre bon et le meilleur. Quel est le meilleur? Là, il y a un discernement qui s'effectue. Eh bien, dans ce cas-là, le poisson, c'est bon. Hein, c'est pas que je déteste le poisson. La vie, j'adore ça. Mais qu'est-ce que j'aime mieux? Voilà, c'est la manière dont travaille Massius. Et elle est extraordinairement insinuante. Je prends un troisième exemple de Massius pour le plaisir de le citer. Quelqu'un lui dit, tu nous embêtes avec ton amour des rites, quand même, les rites, c'est moins important que la vie. Hein, voilà. D'ailleurs, je te donne un exemple. Il y a un premier exemple qui vient, mais je n'en viens pas à ça. Je vais au deuxième que Massius donne de lui-même. Il dit, je peux... Alors, les rites, pour Massius, c'est tout comportement extérieur que va prendre un homme qui se respecte. Hein, c'est pas simplement saluer devant le char, c'est tout comportement digne d'un homme qui se respecte, pour faire très court. Voilà. Massius dit, je peux avoir du pain alors que j'ai faim, mais pour cela, je dois tordre de le bras. Enfin, du pain, c'est pas du pain, de la nourriture, dit Massius. Je dois tordre le bras de mon fils. J'ai envie d'une femme. Je peux escalader le mur gauche. Je sais pas pourquoi il dit mur gauche. J'ai jamais réussi à trouver la raison. De la propriété de mon voisin pour aller violer sa fille vierge. Voilà. Donc, j'ai envie, j'ai des besoins fondamentaux très forts, j'ai faim, j'ai envie, voilà. Bon, est-ce que je vais le faire? Voilà, là, les rites sont plus importants que la vie. C'est la même histoire que la vie et la justice, de ce point de vue-là. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Mais ce qui est très important, c'est les détails concrets que donne... C'est des détails concrets que donne Massius. Ce qui est important, tordre le bras de mon frère. Hein, voilà, je le vois tordre le bras de mon frère, escalader le mur de la propriété. Je me vois en train de faire un acte répréhensible. Je me vois dans l'acte de l'accomplir. À un moment donné, je dis, bah non, je ne peux pas faire ça. Hein, voilà, je ne peux pas faire ça. Voilà comment traverse mon cieux. Et c'est très, très fréquent dans les classiques chinois que de vous mettre en face d'une expérience. Voilà. Je vais finir par un dernier texte, et puis j'arrêterai vraiment là, que je ne commenterai même pas, mais pour vous donner le goût des classiques chinois. C'est un extrait de Li Yun, donc l'un des chapitres du Livre des Rites, et qui explique comment toutes les propriétés morales s'enchaînent, à la fois dans la conduite de l'État et dans la conduite de la personne. Pourquoi il faut à la fois respecter les rites, respecter la justice, développer en soi le sentiment d'empathie, être aussi naturel que possible, c'est-à-dire ne pas être guindé dans la conduite des rites, etc. Et voilà l'extrait en question. Gouverner un État sans recourir aux rites, c'est comme labourer avec une charrue sans soc. D'accord. Hein ? Il faut les rites pour entrer profondément dans les terres. Ne pas enraciner le rite dans la justice, c'est comme labourer sans avoir semé. Fonder sur la justice et ne pas l'expliquer dans l'étude, c'est une autre vertu essentielle, étudier, c'est comme semer sans avoir sarclé. Expliquer la justice dans l'étude et ne pas l'associer au sentiment d'humanité, au gène, c'est comme avoir sarclé sans pour autant moissonner. Unir justice et sentiment d'humanité et ne pas stabiliser leur union par la musique, c'est comme moissonner et ne pas manger. Les stabiliser par la musique sans atteindre au parfait naturel, shun, c'est comme manger sans profiter. Je trouve que c'est un texte extraordinaire. Il vous fait le tour du rite, du cycle agricole, depuis la préparation de la terre, les semailles, etc., jusqu'au fait de manger, pas seulement manger, de digérer, sans avoir profité, c'est sans avoir digéré. Et il lit chaque phase du cycle agricole, c'est-à-dire de ce passage de la naissance à l'accomplissement, à une vertu qui doit arriver au moment propice. Et c'est à la fois un texte qui fait appel à une expérience fondamentale, c'est une civilisation rurale, et qui propose un idéal, j'allais dire, de structure morale où toutes les vertus font sens ensemble à leur juste place, qui est d'un accomplissement tout à fait étonnant. Voilà. Donc voilà quelques éléments de mon admiration toujours renouvelée que j'éprouve à lire les classiques chinois. mais j'ai émis beaucoup de propositions dans un temps très court. Certaines sont critiquables et je compte sur Marc pour nous aider à aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc un grand merci à vous tous. Je crois que tu devrais allumer ton...
Tu comptes un peu trop sur moi pour commenter. Sûrement ici dans la salle, les uns les autres ont pu déjà tirer des leçons, des idées par rapport à donc cette question fondamentale qui est posée dans le titre même de l'ouvrage, « Comment lire les classiques chinois ?» Bon. Pour ceux qui ont lu l'ouvrage... Disons, il ne s'agit pas, bien que là, à travers les exemples qu'on a eus, on a déjà donc quelqu'un qui nous parle de, en gros, la pensée chinoise. C'est tout de même, à travers Mencius et d'autres, mais il ne s'agit pas d'une histoire de la pensée chinoise, justement, comme par exemple l'histoire de la pensée chinoise de Han, l'histoire de la pensée chinoise, de la période classique, bien sûr, bon. Les origines jusqu'au Han, comme tu l'as souligné. C'est pas non plus donc une histoire des courants de pensée, comme on est habitué à les entendre, les confucéens, les taoïstes, les ci, les ça. Non, il s'agit, je dirais, et donc d'une histoire des textes. C'est ça qui est important, c'est l'accent que Benoît met sur les textes. Après tout, quand on fait de la philosophie chinoise, de la pensée chinoise, tout ce qu'on fait, c'est lire des textes. Donc, comment lire ces textes et comment, en lisant ces textes, on parvient à soit dresser des tableaux d'école, des courants de pensée, des manières de voir le monde, etc., etc. Donc, c'est une histoire donc des textes au travers desquels on a reçu croyances aussi de cette Chine ancienne et qui se sont ensuite transmises donc à la postérité au point où on les reçoit encore aujourd'hui. Donc, lire les textes sous ce ordre-là, donc c'est le plaisir de la lecture, le plaisir des textes, on lit des textes. Et est-ce qu'on les lit donc pour en tirer un contenu, bien sûr, et c'est quand même de ça qu'il est question, mais là où Benoît va s'interroger, c'est selon la manière dont on va lire un texte, on va en tirer des contenus et des conclusions différentes. C'est bien de ça qu'il s'agit. Donc il y a bien au cœur de ce livre une question de, on pourrait dire, méthodologique. Qui, si on l'a bien compris, c'est bien ça dont on a eu ici des exemples à travers les 6 ou 7 modes de lecture. Modes de lecture, oui, mais de lecture tout de même avertie, c'est-à-dire d'étude, des modes d'interpréter, des modes de comprendre. Il ne s'agit pas simplement de lire au sens d'ailleurs du deuxième mode de lecture, qui serait ce mode naïf que Benoît traite très rapidement, mais qui, dans lequel il s'agirait simplement de lire le texte sans plus, et pourquoi pas en comprendre ce qu'on peut en comprendre. Non, là il s'agit d'approfondir et de voir derrière quel, selon la manière va aborder un texte, on va d'une part émettre des jugements sur ce texte et aussi en extraire donc la substantifique moelle, le sens ou l'intention soit de l'auteur ou en tous les cas du texte lui-même et ce qu'on va en faire pour sa propre pratique. Soit dans son expérience des textes ou ce dont on a vraiment besoin de savoir quand on se lance dans ces textes. Donc, c'est peut-être, je vais donc faire quelques, vous avez suivi, mais tout de même, puisqu'on a quand même eu des nombres, le quatrième mode, le troisième mode, le deuxième mode. Donc, on est dans une... c'est bien dit, il n'a pas fait cette distinction, mais dans son livre, de manière très intelligente, il divise ces six modes ou sept modes en deux groupes. Il y a le premier groupe qui est de prendre un texte pour ce qu'il est, sans présumer de son authenticité, de prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un classique. Hein. Notamment puisque c'est des classiques, c'est-à-dire des textes importants, des textes qui ont une histoire, des textes qui ont perduré dans la tradition. Voilà, ça concerne les trois premiers modes dont on a parlé, à savoir... peut-être qu'avant, faudrait peut-être, puisque je parlais des classiques, donc ta notion de classique, oui, elle a été définie, on a tous compris, mais je trouve tout de même que tu n'as pas dans cet usage du mot classique, pour ce qui est de la Chine, on ne désigne jamais les maîtres à penser, les philosophes, comme des classiques. Nous, sinologues, quand on voit ça, comment lire les classiques chinois, je me suis dit, on va apprendre à lire les classiques, lire les cinq classiques et jusqu'aux 13 classiques. Voilà. Donc, ça, c'est des classiques avec un grand C. Le livre des mutations, le livre des odes, le livre... Voilà. Ce sont les classiques. Comme au Veda succède des Upanishads, ou... Et d'ailleurs, que tu ne cites pas Hésiode, Hésiode et Homère pour la Grèce, passe tout de suite à Platon et Aristote. Tout de même, les grands classiques, au sens classique, c'est tout de même Homère et peut-être même les premiers tragiques. C'est-à-dire, c'est à travers eux que, dans les cas, élaborent ou échafaudent leurs exemples, prennent leur raciste dans ces, donc dans, d'une certaine manière dans cet ouvrage les classiques que tu décris tout de même dans la première partie du chapitre sur les classiques les fameux classiques mais dans ton expérience de lecture c'est sur les philosophes alors qu'on les appelle des classiques parce qu'ils a... d'ailleurs que pour nous à l'école on apprenait la littérature classique. En gros, c'était la Grèce et Rome. Voilà. N'importe qui, en Grèce ou à Rome, de Cicéron à Hésiode ou de Platon, d'Aristote à Cicéron ou Quintilien, etc., ce sont nos classiques. Voilà. Donc, c'est dans cet ordre dans ce mot classique, c'est-à-dire des textes qui ont été retenus et qui ont été conçus à une certaine époque et qui se sont transmis à nous, à travers à peu près 2 millénaires d'histoire sous des formes diverses et variées. Voilà. Et donc, pour ce qui est donc de comment lire dans ce chapitre 2, le sujet que tu as abordé, donc je pense qu'il faut en rester là. Et effectivement, son originalité et son importance, à mon avis, résident aussi dans d'autres chapitres, notamment le 5, pour moi, en tous les cas. Mais c'est ce chapitre 2 qui traite de la lecture, qui est un qui s'intéresse à la Chine ancienne, ou à la Chine classique, ou à la Chine médiévale ou prémoderne aussi, mais disons plus particulièrement à la Chine classique, c'est-à-dire la Chine ancienne, c'est-à-dire qui s'achève avec les premiers empires des Qin et des Han. Voilà, c'est... je sais plus ce que je voulais dire à ce propos-là, donc... ce chapitre 2, c'est un chapitre absolument essentiel pour tous, pour moi en tous les cas, parce que d'abord il fait un état des lieux, parce que ce qu'il propose ne sont pas nécessairement les siennes. On a peut-être pu comprendre que ce sont les lectures du deuxième groupe qui retiennent plutôt son attention. Donc, il a essayé, dans ce texte, faire un état des lieux de la recherche ou de la lecture des textes anciens pour ce qui est du contexte chinois, en les incluant de manière très, très suggestive, très stimulante, avec classiques, notamment dans le christianisme et aussi en Inde ou dans l'islam. Voilà. Hein. Mais c'est tout à fait intéressant de ce point de vue-là, parce que justement, ce sont ces préambules méthodologiques. On parle de la méthodologie, enfin, on en parle, mais pas de cette manière. Ici, il s'agit de méthodologie de lecture. Hein. C'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Et donc, il y a. Donc, dans ces trois premiers modes de lecture qui prennent le texte comme une donnée objective ou en tous les cas non contestable puisque le texte existe, il a été façonné de tel, disons, de l'époque du 6e siècle ou du 4e siècle ou du 3e, en tous les cas, avec un terminus ad quem, disons, fixé à la fin de la dynastie des Han ou les traditions commentariales, comme il disait, ont contribué à stabiliser ces textes et ensuite ils évoluent dans leur compréhension, mais première phase que se fonde la tradition chinoise des classiques. Voilà. Et donc la première, ce qu'il a appelé la lecture stratégique. Alors là, j'aurais une question. J'ai des questions. Je vais te poser des questions au fur et à mesure. Dans la lecture stratégique, c'est-à-dire, c'est la, on lit le texte avec une arrière-pensée ou avec une volonté, une intention particulière. Hein, et l'intention peut être, si mode purement stratégique, elle est de retrouver la stratégie même de l'auteur de ce livre. Puisque un livre lui-même, un classique, n'a pas été écrit non plus de manière aléatoire. Il y a aussi une stratégie derrière, notamment les fameux cinq classiques. Ils ont été sélectionnés, ils ont été façonnés, notamment à travers des impératifs de type politique. Et c'est qui sont absolument indissociables du contenu de ces textes. Et quand on lit le livre des documents, eh bien, on a une vision de l'histoire ancienne de la Chine sur laquelle repose toute la tradition chinoise. Et c'est ce que Benoît appelle, en suivant Mark Lewis, de l'idée, hein, c'est-à-dire un livre qui constitue un tout. Qui devient, qui se substitue, et même avec certitude, à la réalité historique. On le sait aujourd'hui que les héros civilisateurs présentés dans le livre des documents sont des légendes, sont des mythes. Mais ce sont des mythes de fondation, comme chez Homère d'ailleurs, fondation d'une civilisation chinoise représentée par exemple par le livre des documents. Voilà. Donc ça, c'est la lecture stratégique. Donc là, ma question est que, justement, est-ce qu'on ne le voit pas très bien, d'ailleurs, dans ta l'idée de stratégie qui s'applique à l'écriture, ou la mise en forme du classique, ou est-ce qu'elle s'applique à la lecture, et comment s'articule l'un à l'autre? On va voir que c'est important pour les autres types de lecture. Mais en gros, disons, les modes stratégiques, à l'époque même où ces textes se forment, il y a des modes de lecture qui sont typiques de la dynastie des Han, on les appelle, voilà, les premiers commentateurs. Ensuite, sous les Song, il y a un changement dans la perspective, ne serait-ce que des 13 classiques, enfin des classiques de perspective dans l'appréhension de ces textes. Les auteurs des Song ne comprennent pas et ne mettent pas en valeur, ne lisent pas les textes de la même manière qu'on les lisait sous les Han. Et ainsi de suite, avec bien sûr des Jushi, etc., avaient derrière leur manière de commenter, d'expliquer ces textes, il y avait une intention très particulière de se débarrasser de certains aspects qui n'étaient plus possibles, qui n'admettaient pas dans la pensée des rabbins, et avec l'intrusion du bouddhisme. Enfin bon, on doit étudier justement la lecture stratégique demande à ce qu'on étudie, on se penche sérieusement sur la manière on se met à lire les classiques, ou sous les Ming et les Qing, où il y a un courant, tout le courant dit de Cao Zhengxue, de la philologie, disons au sens large du terme, et aussi Benoît donne l'exemple des jésuites. Les jésuites, c'est une stratégie, mais elle est décalée. Donc, dans les lectures stratégiques, on essaye de dévoiler la stratégie même des auteurs qui ont composé ces textes, mais en même temps, on peut aussi avoir sa propre stratégie et, du coup, déformer, on peut le dire, ou en tous les cas, entraîner l'interprétation qu'on a à travers des traductions des termes. Par exemple, c'est toute la... tout l'art des traducteurs des classiques, des jésuites qui ont œuvré à nous faire découvrir aux occidentaux, à nous, aux Européens, disons, les textes classiques à travers des interprétations liées d'une certaine manière, il y a différentes applications, disons, mais en gros, pour, de toute façon, avec derrière l'intention, mais affirmée, contrairement à d'autres lectures, qui seraient justement la deuxième lecture naïve, la lecture naïve consiste à lire un texte en disant, bon, ben voilà, moi je lis et voilà ce que j'ai compris, sans présupposer, sans se poser de la question de, comme on disait il y a quelques décennies, d'où tu lis, c'est-à-dire à travers quelle grille lis-tu ton texte. Parce que c'est ça le problème. Quand les jésuites lisaient des textes, ils savaient, la plupart, pourquoi ils interprétaient tel terme ou tel aspect des choses de cette manière, par rapport à leur propre nécessité et leurs propres exigences sur le terrain. Hein. Donc ça, c'est les deux premiers. Donc c'est stratégique. Alors, question, si tu as quelque chose à nous dire là-dessus tout à l'heure. Et le troisième, c'est le mode symptomnal, donc aussi un mode assez compliqué, puisque là, dans ce cas-là, justement, il s'agit tout en conservant le donné textuel, c'est-à-dire un livre des Odes, j'ai le Mencius, j'ai le Zhuangzi, j'ai le Laozi, j'ai des textes, et je vais les prendre pour ce qu'ils sont, des textes, et je vais essayer d'en tirer quelque chose qui n'est pas dans le texte, mais qui peut être reconstruit, hein, n'est-ce pas, à travers ce qui n'est pas dit, des non-dits, c'est le cas, c'est Marcel Granet, bien sûr, qui, à travers sa lecture des Odes ou sa lecture du Zhuozhuan, reconstituait la société, ou entendait reconstruire la société des royaumes combattants, ou pour lui-même des printemps-automne, en utilisant des méthodologies de type sociologique, c'est-à-dire par rapport au mouvement auquel il adhérait en son temps, c'est-à-dire le sociologisme de Marcel Mauss et des autres. Et ce que je voulais là, c'est mon questionnement sur ce premier groupe, c'est qu'au fond... entre les jésuites et Granet, moi je trouve que tous les deux sont des stratèges, c'est-à-dire que là où un jésuite va essayer de faire une lecture qui convient à ses convictions religieuses, ou sans être un fanatique, mais tout de même inscrite dans cette culture chrétienne, qu'il importe d'une certaine manière par sa présence même en Chine à cette époque, ce qu'on appelle les missionnaires. Et Granet, sans être un missionnaire, et d'ailleurs il n'a jamais été tellement voyagé en Chine, c'était pas un grand voyageur, mais il a peut-être voyagé plus que beaucoup d'autres, et en tous les cas, lui aussi était attaché à ce sociologisme qu'on lui reproche d'ailleurs, autant son œuvre reste magistrale dans ses interprétations, ses intuitions, autant le sociologiste, c'est-à-dire de tout, de faire, d'expliquer les faits textuels par une structure sociale sous-jacente, par exemple les communautés paysannes, les villages, les échanges, les champs alternés, enfin, etc. La structure même, les structures des échanges entre cousins, enfin, etc. Toutes ces théories, aujourd'hui, bien sûr, elles sont tout de même très contestées. Hein, et parce que jugées justement trop stratégiques, c'est-à-dire qu'il avait une lecture qui n'est plus tellement aujourd'hui acceptée, notamment par les tenants du deuxième groupe, auquel maintenant je vais en venir, je ne veux pas faire aussi long que Benoît, mais donc dans le deuxième groupe donc est intéressant, moi c'est celui qui m'intéresse le plus bien sûr, c'est le groupe dans lequel qui commence donc avec le détricotage, la délecture, donc il y a le dé, la déconstruction pour parler bien sûr comme l'école française, Derrida et avant lui les Lyotard, la déconstruction. Voilà, c'est un courant entièrement qui propose principalement de contester, si vous voulez, les données comme telles. Donc, de lire des, non plus de lire les textes, mais de délire, c'est-à-dire les délires, non pas. Bon, souvent, ça donne du délire, mais qui fait que on met en doute. En fait, c'est l'introduction du doute, hein, dans la philologie. Hein, c'est-à-dire qu'un texte, tout à coup, on se dit, mais ce texte-là, comment on peut le traiter comme un texte, par exemple, pour la notion d'auteur. Foucault a critiqué déjà de longue date, mais aussi la structure même du texte, enfin le contenu, en quoi un texte mérite d'être traité comme texte. Et donc c'est dans ce cadre-là que vont se développer les thèmes, les modes de lecture suivants, dont le premier. Alors, il s'agit, comme l'a souligné Benoît, de ce qu'on appelle en gros de la philologie, parce que la philologie, on n'a pas attendu les Allemands ou la critique biblique au 19e, les Chinois, dès la fin des Han, déjà mettaient en doute certains aspects de leurs textes. D'ailleurs, il y avait le livre des Odes dans la version ancienne, dans la version nouvelle, mais disons à partir des Songs notamment, c'est-à-dire du 10e siècle, de la période médiévale, il y a quand même des attaques en règle de la tradition des classiques, des cinq classiques, et d'une certaine manière aussi des autres classiques avec un petit C, le Lao-tzu, le Zhuangzi, etc. Les lettrés chinois se sont attelés, et ça a culminé avec le courant dit de Cao Zhengxue, c'est-à-dire de la philologie de l'époque des Qing, et surtout à l'époque moderne, c'est-à-dire au début du XXe siècle, avec tout le courant dans la foulée de la fin de l'Empire, tout le courant dit de la revalorisation ou du réexamen sceptique de la tradition chinoise. Hein, et tous ces lettrés qui faisaient partie de ce groupe, en gros, s'accordaient pour dire que, à l'extrême, c'est-à-dire tout ce qu'on a dans tous nos classiques, il n'y en a aucun qui ne représente quelque chose d'authentique. Hein. Tout a été fabriqué, notamment au moment de la constitution des bibliothèques impériales, à la fin du 1er siècle avant notre ère, et donc tout, le mot d'ordre, c'était, alors le principal artisan, il s'appelait Liu Xin, c'est Liu Xin qui a fait tous les livres qu'on lit aujourd'hui, c'est Liu Xin et son père, qui les ont composés ou compilés ou recompilés, enfin, etc. Les discussions, bien sûr, ont été fortement critiquées en Chine, c'est ce qu'on appelle le groupe des sceptiques, et parmi ces sceptiques, il y avait quelques excités, quelques extrémistes, comme on dirait aujourd'hui en politique, mais il y avait aussi des gens très modérés, et ça stimulait donc les recherches philosophiques qui ont débouché, donc, après la guerre, notamment aux États-Unis, hein, dans le courant qu'on appelle aujourd'hui, qui reprend cette tradition, mais alors en la poussant à son extrémité, pour le coup, en déniant, par exemple, enfin, déniant totalement au texte, à la tradition des Han, ou des textes anciens, toute existence en tant que ensemble de textes et d'écoles, c'est-à-dire qu'on arrive, par exemple, aujourd'hui, à dire qu'il n'y avait pas d'école avant les Han, que les écoles, ce qu'on appelle les écoles, taoïsme, etc., c'est une invention des Han, depuis le Shuqi jusqu'à l'époque, justement, de ce fameux Liu Xin, avec le premier grand catalogue bibliographique de la Chine ancienne. Et c'est, quand on va observer ou lire ou essayer de comprendre, il faut faire abstraction des écoles. Ça, c'est le premier point. C'est qui confirme, et l'autre aspect, donc ça c'est on peut dire, c'est il y a deux aspects que moi je trouve très importants. D'une part, donc c'est les manuscrits dans les tombes, qui depuis maintenant 50 ans, alors pour cette école, alors il y a deux courants, il y a ceux qui disent, ben voilà dans quel état était la littérature, les textes, comment étaient les textes anciens, c'est-à-dire des textes très courts, des petits rouleaux en lattes de bambou, et que nous, les textes qui nous ont été transmis, la bibliothèque impériale de la fin du premier siècle était une bibliothèque où les textes sont écrits sur pièces de soie, principalement. On vous dit, un tel, il a recopié tout. Là, c'était encore des rouleaux. Donc, ce qu'on a, alors, dans les tombes, si on imagine que c'était les livres tels qu'ils étaient dans les bibliothèques des défunts avant leur mort, c'est évidemment les fameux Lao Tzu dont il parlait, puisque dans le Lao Tzu, par exemple, de Guodian, fin du 4e siècle avant notre ère, bon, il y a, en gros, il y a deux tiers du Lao Tzu traditionnel, donc on va se déchirer pour savoir si il s'agit d'une anthologie, ou s'il s'agit d'une version de mauvaise qualité du Lao Tzu traditionnel, qui existait donc déjà sous sa forme, par exemple en 81 stances, ou 81 chapitres, disons, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein, donc il y a les découvertes de manuscrits ont propulsé toute une école de philologues, hein, ce que tu appelles la méthode historio-critique, voilà, et donc il amène à mettre en cause en fait toutes ces traditions et qui ont pour résultat donc non seulement donc de mettre en veilleuse toutes ces histoires d'école. Oh ben non, il n'y avait pas de taoïstes, il n'y avait pas de confucianistes, voilà, et derrière ça il n'y avait même pas de les textes sont des sortes de des données, on obtient une énorme, une vaste banque de données qu'on va exploiter, et c'est là où cette école aussi a bénéficié non seulement donc des travaux des philologues chinois du début du siècle, mais de la transformation de la recherche qui a été apportée par la mécanisation et l'informatisation des textes anciens, qui a commencé dans les années 80. C'est quand même pas très, il y a 40 ans, on lisait, nous qui avons commencé, on lisait, quand on voulait savoir ce qu'il y avait dans Zhuangzi, ben on lisait Zhuangzi. Et puis quand on voulait savoir ce qu'il y avait dans, ben on lisait le Lao Tzu. Alors très souvent on se fatiguait en route, mais ou le Li Ti, fallait lire le Li Ti. Et des fois même dans des éditions non ponctuées, puisque tout ça s'est fait lentement et progressivement. On lisait le Shuqi encore. Bon, déjà c'était peut-être nos seigneurs. Moi, j'ai déjà lu c'est-à-dire les mémoires historiques de Sima Qian, déjà dans les versions de Pékin, voilà. Mais peu de temps avant, on lisait ça dans des versions non ponctuées, avec cousu de fil, les commentaires dedans. Enfin, on était dans un univers totalement étranger, disons, par la forme, et aussi extrêmement... Il fallait lire le livre, et donc il fallait se familiariser avec un livre longtemps avant de pouvoir même en dire quelque chose. Ou sans ça, voilà. Et la mécanisation, l'informatisation... des textes chinois anciens et d'ailleurs modernes aussi, aujourd'hui, qui a commencé notamment à Taïwan, par exemple Scripta Sinica. Aujourd'hui, on a tous les livres. Il n'y a plus aucun livre chinois de cette époque ancienne qui n'est pas mécanisé, qui n'est pas disponible en banque de données. C'est-à-dire, vous appuyez, ça a complètement changé la manière de faire des recherches. C'est-à-dire que les textes sont à plat. C'est-à-dire, tout texte, c'est simplement un fichier. Alors, ce que votre fichier s'appelle Chuangzi ou Hanfeizi, d'une certaine manière, malheureusement, et c'est justement le défaut que ne fait pas et que combat Benoît, c'est du pareil au même pour certains de ces de cette nouvelle école de philologie, c'est-à-dire on fait, alors on tape, on veut savoir une notion, un concept, on veut savoir, je sais pas, le qi par exemple, le souffle vital, bon ben on va taper souffle vital et on va avoir des centaines de références. Donc, alors certaines vont être tirées de du Zhuangzi, l'autre du Hanfeizi. Bon, on va le noter quand même si on est sérieux, mais on va pas en tirer les conséquences. C'est-à-dire, on va pas lire tout le Zhuangzi pour une seule référence au Qi. Il y en a beaucoup plus qu'une. Mais je veux dire pour ou un tel ou un tel. Donc, on va effectivement. Donc, on peut se demander si c'est cette mécanisation, cette informatisation de la recherche. Les plus jeunes aujourd'hui travaillent comme ça. Il y a des thèses qui sont composé que dans c'est-à-dire en faisant des statistiques. On arrive à ce qu'on appelle aux méthodes statistiques. Alors on va vous dire, ah oui, bon, ben, ce caractère, il apparaît 600 fois. Bon, donc, ça veut dire que, ou on va aussi étudier dans ces 600 fois, il y a, ça veut dire ci ou ça veut dire ça. On va aussi faire des recoupements et le résultat va être que, bon, tout ça est un magma de textes qui a été peu à peu divisé en groupes et en auteurs ou en auteurs au sens large du terme, en famille, placés sous l'autorité d'un auteur, Zhuangzi, Hanfeizi, Gong Sunlong, etc., qui sont malgré tout. Et c'est là où, justement, c'est pas non plus par hasard. Donc, si on lit le Gong Sunlong, on peut pas s'attendre à trouver du Mengzi, par exemple. Parce que c'est réuni, mais ça serait comme si des spécialistes étaient aussi... Alors, au mieux, c'était un peu au IIIe siècle, mais la plupart aussi, on dit que ça s'est fait sous les Han même, c'est-à-dire pour des raisons totalement étrangères à ce que c'était à l'époque. Des royaumes combattants, c'était pour des impératifs politiques, impériaux, par exemple pour les analectes de Confucius. Aujourd'hui, vous savez peut-être, les débats autour des analectes, et on se retrouve dans une situation... où certains chercheurs, et pas des moindres, et en plus très nombreux, et c'est quand même l'opinion qui domine en général aux États-Unis et aussi maintenant chez certains auteurs européens, notamment les philologues allemands, qui d'ailleurs aux États-Unis mènent aussi battent la campagne dans les plus grandes universités qui sont dirigées par des sinologues allemands formés dans les universités allemandes, à la philologie classique allemande, et on se retrouve donc dans cette situation où les analectes, c'est un faux comme on l'avait à l'époque d'Ernest Renan, on vous disait que les évangiles, c'est de la gnognotte. Bon. Tout ça, c'était des débats, évidemment, politiquement informés. Alors, quels sont les soubassements politiques de ces... notamment américaines. Bon, on n'est pas ici pour en débattre, mais donc il y a il y a ce courant qui est très important et c'est qui est le représentant de cette première lecture. Il suffit de lire. En France, on a des grands opposants. Le plus grand opposant, c'est bien sûr Jean Lévy. Si vous lisez sa traduction des Analectes, donc publiée dans la collection que je co-dirige sous la forme des deux arbres de la voix, donc le Lu Nu et le Lao Tzu réunis pour la première fois, à la fin des Analectes, il fait une attaque virulente contre donc cette école américaine qui l'estime être totalement hors circuit dans son appréhension des textes. Il dit justement que ces gens vont retrouver dans n'importe quel texte de cette époque, quel qu'il soit, pour quelque raison qu'il ait été écrit, un texte, s'il y a trois caractères, alors ils définissent certains. Il faut, pour peu qu'il y ait trois caractères qui suivent dans un texte, ça veut dire qu'il a été emprunté ou que c'est le loup. Il y a des chances que ça soit donc ce qu'on appelle les parallèles en américain, mais avec derrière donc une possibilité de contamination textuelle d'intertextualité qui fait que le loup nu n'a aucun en soi. Donc il s'oppose fortement à ça et ça lui a valu d'ailleurs des critiques. Pour lui, il s'agit d'une forme de négationnisme, c'est peut-être un peu, mais en tous les cas du révisionnisme de toute la tradition chinoise. Alors, quand c'était les lettrés chinois eux-mêmes qui, au XXe siècle, prétendaient faire la révision de leur propre tradition, mais quand tout à coup ce sont ces méthodologies nouvelles qui impriment des manières de travailler différentes et qui d'un seul coup nous permettent effectivement de retrouver du Lu Nu dans tous les textes chinois, puisque il faut d'abord parler de ça. C'est la tradition chinoise, c'est une tradition, comme disait Granet, de centons de phrases qui se répètent et qu'on retrouve un peu partout. Mais c'est pas parce qu'on a cette phrase que c'est l'un à copier sur l'autre ou qu'il n'y a pas de différence entre les écoles. Enfin bon, j'en reste là, et pour ce qui est donc de ce courant, donc, auquel appartient aussi par exemple un Christoph Herbstmeier, un sinologue allemand qui a fait sa carrière en Norvège et qui vit maintenant au Danemark, qui lui aussi, sans être aussi virulent qu'un Jean Lévy, mais qui aussi se pose des questions sur le sérieux de ces sinologues qui, à tout bout de champ, viennent critiquer les choses. Bon, alors, on en arrive donc à l'eau. Je passe sur la traduction commentariale, qui est très importante, effectivement, mais qui, elle, reste tout à fait légitime dans ses lectures. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de déconstruire un texte, mais il s'agit d'en suivre les variations à travers les commentaires, soit que les commentaires transforment, au début c'était le cas, le texte lui-même, soit que aujourd'hui nous lisons un texte comme Wagner pour le Lao Tzu à travers le commentaire de Wang Pi ou etc. à travers les commentaires des Tang, des Song, des Ming et des Qing. J'en viens à la rhétorique structurale. Alors là, je pense que tu l'as très bien expliqué. Hein, que ça soit par l'idée de composition du texte lui-même, par exemple l'idée de composition circulaire, hein, que ça soit par la numérologie, c'est-à-dire le recours, c'est là où ça appartient à ce groupe, c'est-à-dire on garde le donné textuel tel qu'il est, mais on met en avant des structures qui n'apparaissent pas au premier coup d'œil, qu'il faut justement travailler pour essayer de retrouver, pour démontrer à travers des régularités de type numérologique, des constantes et donc une structure du texte qui n'apparaît pas autrement. D'une certaine manière, ça se justifie aussi par ces découvertes archéologiques où on pense qu'un texte est composé de mini-textes. Donc quand vous avez, ou même le Zhuangzi, quand vous regardez surtout dans les chapitres de la deuxième moitié, ce sont des assemblages d'anecdotes. C'est la même anecdote, il y a 5 anecdotes ou 10 anecdotes, donc ces anecdotes, elles ont forcément et regroupé par quelqu'un. Bon. Alors, comment ces choses-là se sont organisées, et notamment à travers des ouvrages comme le Huainanzi, comment les auteurs ont voulu donner une cohérence à un ensemble de textes qui, d'emblée, n'en avaient pas, hein, ou comment ils ont structuré leur texte par rapport donc à une vision numérologique ou d'une structure liée au nombre. Là, on va revenir sur les nombres à la fin, mais ici ma question, donc c'est je trouve ça très intéressant. Alors, ce qui est surtout très intéressant, c'est que ça s'oppose entièrement à la lecture déconstructiviste, puisque tout à coup, on revient, ça pourrait être dans le premier groupe. On reprend le texte comme une donnée. Et on essaye de retrouver à travers, de légitimer son existence, l'unité, disons, d'une certaine manière, par des principes numérologiques. Donc, alors que le texte, dans l'école déconstructiviste, n'ont pas d'existence propre. Donc, ce sont des constructions qui n'ont aucune base disons logique, ou qui ont été reconstruites tardivement, alors peut-être aussi sur des bases numérologiques, mais là j'ai une question, c'est une question qui est importante, il me semble, c'est que ton mode de lecture d'une certaine manière contredit et s'oppose de manière différente de celle d'un Jean Lévy ou d'un Habsmeyer, mais aussi à cette école déconstructiviste qui fait des textes des unités, c'est-à-dire qui met en cause l'idée d'une unité textuelle plus large que celle des éléments dont elle est constituée. Ça, c'est une question que je trouve très importante. Alors, je voulais parler, mais là, on 8 heures, hein? Et ben voilà, justement. Donc, j'en reste là. Il y a, bien sûr, les nombres, c'est mon sujet de prédilection, dont j'aurais voulu parler, mais bon, j'en suis resté, puisqu'on a tu es toi-même resté dans le chapitre 2, je trouve que c'est évidemment les nombres très importants. Et je voulais simplement, là aussi, encore une question, si tu qualitative et fonction quantitative des nombres, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est un vieux débat, hein, donc, qui a été déjà mis en avant par Granet lui-même, qui prétendait que les Chinois, les lettrés chinois, n'ont jamais même eu l'idée d'avoir une vision quantitative des nombres pour valeur qualitative, c'est-à-dire devait être prise dans leur sens symbolique, dans leur sens quantitatif, c'est-à-dire pas simplement pour calculer, etc. Donc c'est une mise en cause, d'une certaine manière, des mathématiques chinoises. Mais bon, là aussi, j'avais une question. J'ai l'impression que dans la tradition chinoise, extrêmement intimement lié, c'est-à-dire que quand les des gens comme bon, je ne vais pas citer de nom, mais on entend dire que de valeurs emblématiques, valeurs ben non, les Chinois, c'est des gens sérieux, ils avaient aussi, et non, ils avaient en premier lieu une dimension quantitative des nombres. Bon, c'est très discutable, hein, parce que même chez prenons par exemple le gnomon des Zhou, le classique de la gnomonique, les dimensions du monde, ils en arrivent après des calculs très savants, des ombres, observation des ombres, on arrive quand même que la dimension du monde, c'est 810 000 kilomètres. Enfin, 810 000 lieues. Hein? Bon, c'est clair que 810 000, ça n'a pas été trouvé pareil, puisque c'est 9 fois 9. Voilà. Et comme ça, pour tous les textes scientifiques, notamment, justement, ce fameux Liu Xin, là, de la bibliothèque à la fin du 1er siècle, il a fait lui aussi un système astronomique qu'on appelle le système de la triple révolution, auquel on reproche, justement, les historiens reprochent de l'avoir mélangé avec le livre. C'est-à-dire que toutes les constantes, il a transformé pour qu'elles correspondent à des nombres qui se trouve dans le I Ching, dans le livre des mutations. Donc on voit comment une conception quantitative, parce qu'elle est tout de même quantitative, parce que le système était capable de prédire des éclipses malgré tout. Pas de soleil, mais de lune, et d'autres phénomènes et mouvements. Donc il y a une dimension scientifique, donc quantitative, mais dans un habillage qualitatif, qui était absolument inévitable, de même que dans la tradition chrétienne, il fallait, à l'époque de Galilée ou de Bruno, il fallait parler de Dieu. Voilà. En Chine, c'était les nombres, peut-être. Est-ce qu'on pourrait mettre ce parallèle? C'est pas les nombres qui ont tué Bruno, c'est son rejet de l'œuvre divine, enfin, etc., etc. Donc tout ça, ce rôle des nombres dans la tradition chinoise, je pense qu'il est extrêmement important. Granel l'a vu, et je pense que ça serait bien qu'on fasse une conférence sur ce point. Donc j'en terminerai là. Remercier encore Benoît pour avoir osé et s'être lancé dans sa propre expérience de lecture des textes, et donc d'avoir mis la pensée chinoise en relation avec les textes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important, c'est le texte lui-même, c'est lire les textes et ne surtout jamais sortir des textes, mais rester toujours accroché aux textes et aux classiques. Et donc je voulais le remercier d'une certaine manière, et il l'a fait, de l'hommage qu'il rend, sans le savoir, à notre collection Bibliothèque chinoise, qui justement se propose de donner à un public français, plutôt que des livres où on vous dit ce qu'est la Chine ou comment penser chinois, on vous donne des textes chinois, et donc c'est à vous. Alors bien sûr, que vous compreniez, que vous parliez chinois, ou les textes sont en bilingue, mais vous n'êtes pas obligé, ou nous efforçons de rendre les traductions les plus accessibles possibles, mais vous avez toujours le chinois à côté pour pouvoir vérifier, ou comme gage en principe que vous avez le texte d'origine tel qu'il est traduit. Et c'est ensuite, justement, avec un ouvrage comme « Comment lire les classiques chinois », que vous pouvez vous familiariser avec la meilleure manière qu'il y a de comprendre ce que vous lisez. Et ça sera certainement à terme, alors évidemment en faisant un petit effort, plus profitable que de lire tel ou tel livre sur la pensée chinoise en général, c'est-à-dire sans très souvent en ignorant, en laissant de côté les textes et la complexité de cette matière textuelle qui a mis 8 siècles à se constituer pour ce qui est de la Chine la plus ancienne jusqu'au Han, et qui ensuite s'est transmise. Ah, merci, cher Benoît. Encore.
Merci, Marc. Je vais peut-être demander à notre président de séance, John McGathway, de revenir pour prendre les questions. Et en même temps, une minute, donc viens maintenant, va, parce que je ne vais pas répondre justement pour donner le maximum de questions. Je voulais juste dire les choses. C'est peut-être un peu étonnant pour certains de nos auditeurs qu'on parle de comment lire les classiques chinois et qu'on parle à ce point-là des doutes qui pèsent sur les textes. Mais enfin, ces doutes sont créateurs, c'est-à-dire ils n'empêchent pas de lire, par exemple, les volumes de la bibliothèque chinoise, d'aborder les textes tels qu'ils nous sont parvenus et puis peu à peu d'en enrichir la compréhension en réalisant qu'ils ont une histoire, ce qui est vrai de tout texte et des textes bibliques ou des textes grecs également. L'autre chose que je voulais dire, c'est que Marc a insisté plutôt sur le fait que les découvertes archéologiques créer des doutes, c'est vrai, mais en même temps, ils ont confirmé tout de même beaucoup de choses. Et je pense que Marc sera en plein accord là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aussi par ces découvertes que l'ancienneté de ces textes était absolument avérée, bien plus même que ne le croyaient certains des plus optimistes, si j'ose dire, même si ces textes ont toujours été transformés. C'est-à-dire que le fond de ces textes chinois remontait effectivement à une époque extrêmement ancienne, mais qu'ils avaient toujours été retravaillés. Retravailler ne voulant pas dire d'ailleurs qu'on passait n'importe comment une version à une autre, on revient sur le même débat, mais plutôt qu'on cherchait peu à peu leur forme, à mon avis, la plus parfaite. Et que cette forme, évidemment, l'idée d'une forme parfaite pouvait évoluer dans le temps, mais que le texte, d'une certaine façon, avait un télos, c'est-à-dire une direction vers laquelle il avançait. Voilà. Je pourrais répondre à beaucoup de choses, notamment mon nombre qualitatif, quantitatif, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Mais là où je pense que la pensée mathématique chinoise a avancé, c'est justement pas dans l'arithmétique, mais c'est sur deux points, à partir de la fin des Han. Un, c'est la géométrie, proprement dit, c'est une réflexion sur les formes de plus en plus avancées, et la manière justement dont on génère une forme d'une autre. Et deux, c'est dans l'expression logique. Et une historienne des sciences comme Karine Chemla a très très bien montré que ce qui est étonnant, c'est que peu à peu se forme l'idée de proposition universelle. Contrairement à ce qu'on avait toujours dit. C'est-à-dire que la pensée mathématique chinoise n'est pas simplement une pensée pragmatique. On va dire, alors vous avez 1000 cubes d'eau qui vont descendre, vous devez creuser un réservoir de quelle taille, mais qu'on essayait, à partir d'un cas d'école, de fonder une règle à portée universelle. Et ça, on a mis très longtemps à s'en apercevoir, mais ça ne s'est pas mis en place avant le 2e ou 3e siècle, après notre ère, c'est-à-dire après les Han. En d'autres termes. Donc oui, il y a une évolution extraordinaire de la pensée mathématique chinoise, mais en même temps, le nombre, dès le début, c'est un peu comme une idée platonicienne. C'est-à-dire qu'il y a une qualité qui est attachée au 5, le 5, c'est le nombre du milieu. D'abord, ça part du 1, c'est parce que le 1 a une telle importance. Ben voilà, le 1, c'est le grand, c'est ce qui ne peut pas être divisé, c'est ce qui est origine. Le 2, c'est le couple dans lequel le 1 n'est pas encore séparé. Le 3, c'est le surgissement des êtres. Le 4, c'est les formes. Vous pouvez bâtir un carré uniquement à partir de 4. Le 5, c'est le nombre au milieu. Et ensuite, de suite, qui va bâtir, notamment sur une base 10, l'idée, le 10 étant le retour à l'1, donc on peut dire 9 ou 10, les deux marches, nous disent tous les textes. On peut dire 9, on peut dire 10, c'est la même chose. L'idée d'une qualité attachée à un nom proprement dit, ce qui explique que 9 fois 9, ça soit la plénitude. Voilà. Mais le roi Nanzu, justement, nous explique 10 ou 81, c'est le même nombre. Parce que 10 et 81, dans tous les cas, c'est le nombre de la plénitude. Voilà. Donc, c'est le chapitre 4. C'est pas dans le 3. Mais il a un long développement là-dessus. Donc,
c'est ce que Gramet appelait le jeu d'une unité.
Voilà, exactement. Donc, on peut à la fois se servir des nombres pour calculer et leur donner une valeur qui permet de comprendre comment marche l'univers dans ses principes de départ. Et il marche à partir d'une succession de nombres qui d'abord va jusqu'à 7 et puis qui va continuer jusqu'à 9 avec le retour du 1 au 10, qui permet de mettre tous les phénomènes dans une grille. Voilà. Et on commence à le voir déjà dans l'un des chapitres sans doute les plus anciens du livre de documents, c'est-à-dire le Rongfan. Le Rongfan, donc le grand dessin, c'est une grille dans laquelle on met tous les phénomènes, quelle qu'en soit la nature, à l'intérieur d'une grille numérique. Voilà. John, tu veux vraiment pas venir prendre des questions ?
Je pense qu'il faut d'abord...
Oui, justement, c'était pour prendre des questions. Oui.
Donc, ou bien créer, ou bien...
Non, j'ai simplement une petite question. C'est le dans tout ce c'est quand même d'un genre un peu particulier. Et alors, je ne sais pas si ça pose un problème pour la lecture de ce classique d'histoire racontée. C'est beaucoup plus.
Ben non, juste oui, pardon. Pardon.
La deuxième chose, c'est littéraire. Est-ce que dans le Wenxindia, vous trouvez des procédés qui vous aident à comprendre la façon dont fonctionnent les classiques ?
Oui.
La troisième chose et dernière que de la Bible. Bon, une fois qu'on a dit qu'il y a plusieurs Moïse, et qu'on peut faire une étude comme vous en en se demandant d'où il vient, qui s'appelle la Bible. Sorry, sir. qui ont inventé l'expression la lecture canonique de la Bible, c'est-à-dire dans l'ensemble. La lecture tous nos copains qui est-ce qu'il est possible d'obtenir une lecture comme ça des classiques? Est-ce que
je vais d'abord répondre et puis Marc me corrigera. Voilà. Premier point, le Zhuozhuan n'est pas du tout un problème parce qu'au départ, c'est simplement une extension des annales des printemps et automne. Donc il dit, voilà, donc il y a une filiation fixe et en même temps, il y a un modèle qui s'ajoute au récit des faits, c'est le modèle justement du livre des documents. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des faits rapportés, on va à certains moments rajouter des discours exemplaires. Donc justement, le Zhuozhuan est un très bon exemple de ce qu'est l'intertextualité, de ce qu'est, ce rapport des classiques entre eux, et en même temps, c'est une très grande création littéraire en soi. On dit souvent que les deux textes classiques les mieux écrits, c'est le Zhuozhuan et le Chuangzi. Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, il fait partie du système sans avoir de problème. Il présente finalement une lecture des annales des printemps et automne parmi d'autres lectures disponibles. Voilà. Ça, c'était la première. La deuxième, Michel, excuse-moi, j'ai un trou. Oui, alors oui, j'en parle justement, mais il y a encore énormément à faire. Donc, le Wenxin Diaolong, c'est, sauf erreur, le 5e siècle après Jésus-Christ. Et c'est l'œuvre d'un génie qui, d'ailleurs, structure son livre de façon extrêmement ferme. J'ai oublié si c'était 5 parties de 5 chapitres ou quelque chose comme ça, mais il y a le nombre 5 partout. Et il joue le rôle qui est celui de la rhétorique d'Aristote en monde grec, c'est-à-dire il va vous livrer les principes de composition. En fait, c'est un livre de rhétorique, il explique comment composer. Et le texte est extraordinairement difficile, hein, moi je trouve. Enfin, j'ai essayé d'en lire et même d'en traduire des petits extraits, mais c'est horrible, vraiment, la difficulté du texte. En plus, il prend Chuangzi comme modèle, mais c'est pas la même époque, etc. Donc, je crois que même en langue occidentale, on n'a pas une seule traduction. Non. Il y a eu des thèses, j'ai trouvé certains exemples, je me suis d'abord appuyé sur les traductions qu'il y avait dans ces thèses avant de m'apercevoir que la traduction était fautive, par exemple. C'est un texte difficile, mais je pense que tous les principes de rhétorique structurelle que j'énonce pourraient être trouvés dans le Wenxin Diaolong, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est une œuvre de rhétorique essentielle qui, comme toutes les œuvres de reprise, disons comme la chouette des gueules vient à la tombée de la nuit, c'est-à-dire justement quand le système n'est à peu près plus compréhensible. Hein, voilà. Mary Douglas, qui a écrit donc le livre Pensée en cercle, explique qu'il y a les périodes où une civilisation préfère le fermé, le complet, et celle où elle préfère l'ouvert, et donc le linéaire. Voilà. Et que ce sont des alternances qu'on trouve dans toutes les civilisations. Et que quand une civilisation passe à un autre stade, elle ne comprend plus la manière dont ses œuvres précédentes avaient été composées. Voilà. D'ailleurs, oui, mais ça se trouve aussi quand deux civilisations se mélangent. Les premiers commentateurs grecs et latins des évangiles disent « Marc et Matthieu écrivent dans la confusion la plus totale ». On sait évidemment que les évangiles de Marc et Matthieu ont une structure rigoureuse, mais c'est certainement pas la structure de la rhétorique d'Aristote. Elle échappe totalement aux commentateurs déjà de la fin du IIe siècle, nourris d'une rhétorique gréco-latine. Voilà. Donc, ce sont des phénomènes courants. La lecture globale des classiques, je crois que c'est ce qui est tenté dès la période Rane, c'est-à-dire dès le moment où on fait un canon. Il s'agit de l'interpréter dans sa globalité. Le problème, donc, c'est qu'on le fait sous les rames, qu'on le fait sous les globales, n'est absolument pas la même. Voilà. D'où, par exemple, la hiérarchie différente qui est donnée aux différents textes. Hein? Ou d'ailleurs le découpage avec Chouchi, dans lequel de tel livre, on va en prendre un tel autre et lui donner un rôle central. Donc, on a toujours tenté des relectures centrales. On le fait encore aujourd'hui. la qualité intellectuelle de ces reconstructions est sujette à débat, je dis à débat, hein, je ne la conteste pas par principe, mais Chen Lai ou d'autres, c'est ce qu'ils passent leur temps à dire. Ce que nous faisons, c'est de réinterpréter les textes classiques de telle façon à en offrir une interprétation globale qui revitalise la nation chinoise. C'est le vocabulaire utilisé. Hein, voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, et c'est peut-être une chose qu'on doit retenir d'ailleurs, c'est que les classiques chinois sont effectivement un enjeu stratégique central et qu'on les lit comme un tout. D'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les gros chouets, les études nationales, ce n'est pas autre chose. On présente aux étudiants, soit dans les universités, soit des classes d'entrepreneurs et des autres qui viennent se former à l'université, un classique l'un après l'autre. Et puis après, on en propose une interprétation globale. Voilà. Alors, il est évident qu'une interprétation du style de Lizzero, je ne sais pas si elle est globale, parce qu'elle est de nature très esthétique, par exemple, dans le cas présent. Enfin, il a fini par se diriger vraiment vers une esthétique plus qu'autre chose, mais enfin, c'est l'une certainement des plus libres et des plus compétentes. Il y a des interprétations beaucoup, beaucoup plus douteuses. J'en présenterai certains dans un autre livre que j'ai achevé et qui, justement, essaie de lire les différentes lectures des classiques chinois depuis le mouvement du 4 mai, en gros. Voilà. C'est-à-dire un siècle, en gros, de tentatives de reconstruire un canon chinois et de lui donner un sens. Enfin, c'est une partie du livre, c'est loin d'être complet, mais ça montre que c'est un enjeu essentiel, effectivement. Même, j'allais dire, tout philosophe chinois actuel qui travaille sur le matériel chinois, c'est essaie d'abord de faire ça. Voilà, c'est ce qui justifie son... Venez ici. Venez ici.
Merci.
Oui,
pardon. Oui, à propos des échanges entre l'Occident et l'Extrême-Orient, Chine, évidemment, à partir des nombres, il y a un haut fait. Rosalind Franklin n'a pas été citée, mais en fait, c'est elle qui serait la découvreuse du système à double hélice de l'ADN, c'est-à-dire du génome. Et en fait, il est dit qu'elle s'était intéressée, c'était l'époque New Age, au I Ching, ce qui prouve qu'elle aurait fait une lecture organique et globale de ce texte. Pourquoi pas ? Qu'en pensez-vous ? Voilà.
J'ignore totalement cette Rosaline Franklin, ça ne me dit rien. Voilà. Du livre des mutations. Mais vous savez, il y a des lectures globales et organiques du livre des mutations depuis longtemps. Hein. Ça nourrit l'imaginaire occidental plus que l'imaginaire chinois, par ce d'un côté. Oui, oui, c'est ça. Mais que le I Ching, moi j'appelle le I Ching dans mon livre un code source, on dit en français. Voilà. C'est-à-dire, c'est moins un texte qu'une façon de fabriquer du texte à partir des nombres. Donc ça garde, alors il y a des niveaux différents, hein, il y a l'image, il y a l'intention, puis après il y a le commentaire, bon, etc. Mais enfin, tout ça a pour but de fabriquer du texte de manière ordonnée. Alors le texte peut être de nature différente, texte prédictif, texte cosmologique, texte moral, tout ça à la fois, mais à partir de schémas infratextuels. C'est ce qu'offre le I Ching, voilà, hein, dont l'histoire est compliquée parce qu'il évolue sur un double axe. De fait, il est formé au départ à partir de manuels divinatoires, d'ailleurs relativement variés, avec des différentes, et peu à peu, il développe, d'ailleurs on a même des manuels sur lesquels il y a des corrections apportées en fonction des prédictions qui se sont réalisées ou pas. Donc c'est un manuel pratique. Et puis plus tard, il y a une visée cosmologique et philosophie générale qui dans les dizaines, dans les commentaires, se met, je dis plus tard, mais c'est très tôt quand même, se met en marche et on finit par avoir ce texte majestueux qui ne se veut pas un texte mais un producteur de texte. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je regarde le I Ching. Voilà.
C'est ça. Et d'ailleurs,
oui.
À ce qui est confus, les manuscrits, mais aussi les textes comme le Mozi, nous ont plutôt peut-être orienté vers l'idée que le mot Qing est apparu comme tu dis, un texte qui fait autorité par rapport à un commentaire. Donc déjà, dès le début, il y a les commentaires, c'est-à-dire, par exemple, on a trouvé dans les tombes des textes, le texte Wuxing, par exemple, qui contient, dans lequel il y a un texte qui est appelé Qing,
oui.
Et ensuite un autre qui s'appelle Shuo. Shuo, ça veut dire expliquer, parler, mais aussi commenter, expliquer. Et donc, il semblerait que l'idée de Qing, probablement, est apparue dans les écoles comme dans les milieux intellectuels, mais aussi techniques, parce qu'il y a aussi des Qing qui sont des ouvrages scientifiques, hein, ou techniques en tous les cas, et donc comme opposé à un commentaire, à un exposé, oui. Qui appelle un shuo, c'est-à-dire un exposé. C'est le cas de la partie aussi dans le mozi, qui est un texte dont la dernière partie est composée aussi selon le mode du qing et du shuo. Hein, le qing vous donne le texte, et le choix vous donne le commentaire. C'est aussi dans certains textes du chapitre sur les coutumes funéraires dans le Liti ou le Ili, où aussi on a le Ti et le choix. Donc je pense que c'est...
Oui, oui, il y a la norme et son interprétation.
Oui, oui. Alors, ah oui, ouais. Parce que le Ti est le Wei. Le Ti, la trame, et les Wei Shu, qu'on traduit par apocryphe, faute de mieux... de trouver une bonne traduction, mais les textes, comment c'est la trame et la chaîne.
Et la chaîne.
Et la chaîne, les textes chaînes, les textes trame et les textes chaînes. Bon, les textes chaînes, ce sont des textes en bordure ou en marge des classiques, mais qui, sous les Han, avaient statut de quasi-classiques. Hein. Donc, ensuite, ils ont été déconsidérés, ils sont tombés dans l'oubli, on les appelle des apocryphes. Ils sont apocryphes au sens où c'est pas Confucius qui les a écrits. Parce qu'il faut quand même se dire que même à l'époque de Granet, ça explique quand même beaucoup de choses, c'est Granet et ne se prononçait pas sur la thèse qui prévalait encore à l'époque, que les classiques ont été sinon composés, mais compilés, organisés par Confucius. C'était encore la théorie qui prévalait largement à cette époque-là.
Ça l'intéresse pas, c'est pas son problème.
C'est pas son problème. Ouais. Hein, donc, il faut tenir compte de ça, et c'est une chose qui aujourd'hui, même les plus conservateurs des lettrés chinois ou des ne contestent pas que Confucius n'a rien à voir avec les classiques. Enfin, il y a certains peut-être, Chen Lai, je sais pas, mais. Voilà, on peut plus aujourd'hui affirmer c'est des choses comme pareilles, donc ça change du coup, ça ouvre la voie. Alors si c'est pas Confucius, alors qui sait, hein? Et de là c'est l'ouverture donc de tout ça. Mais...
Alors, bonsoir. Donc, je souhaite peut-être une très bonne année de lapin à tous les auditeurs. Alors, je suis vraiment impressionné par l'ampleur de la connaissance et la profondeur de la compréhension des classiques chinois de nos deux orateurs. Moi, j'ai plusieurs remarques et peut-être quelques questions. C'est que finalement, la lecture des classiques ou des galons, c'est pour ceux, pour les experts, n'est-ce pas? C'est-à-dire ceux qui comprennent donc les classiques. Et est-ce qu'ils ont besoin de toutes ces modalités de lecture pour saisir le sens de ces classiques? En revanche, pour ceux, donc, par exemple, le peuple de la rue, de la vie quotidienne, et est-ce que nous, avec toutes ces méthodes, tous ces modes de lecture, est-ce qu'on arrive à les lire? Moi, je donne un exemple. Comment lire les musiques classiques pour moi? Quelle que soit la méthode, ça ne peut pas m'inciter à comprendre la musique classique puisque je ne comprends pas vraiment cette musique-là. Je peux sentir, mais je ne peux pas lire. Donc, avoir un manuel de ce type, est-ce que le peuple de la rue, de la vie quotidienne, de comprendre mieux ou pas? Mais pour les experts, bien sûr, c'est très utile. Et c'est très utile, c'est peut-être partiellement. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est la lecture globale. C'est qu'en Chine, comme les canons, enfin les classiques, ne changent pas depuis 2000 ans. Et donc, la lecture ou la relecture globale, c'est au service toujours des politiques, de l'empereur, y compris pour les politiques actuelles, hein, donc, y compris pour la politique de la révolution culturelle. Donc, la relecture de Confucius, exemple, donc, ça peut être totalement contraire, donc, contre ce qui est la lecture du passé, peut-être du lendemain. Donc, une lecture globale, ça n'existe jamais, je dirais, voilà. Sachant que quand on cite un classique, on cite toujours une phrase, un paragraphe. On ne cite jamais une œuvre entière. Donc, on ne peut pas dire citer donc, les 24 classiques avant de dire « Ah, j'ai compris la culture chinoise ». C'est impossible. Or, en Chine, il y a une autre culture qui permet à tout le monde de lire les classiques. C'est les proverbes. C'est-à-dire les gens, dans le passé ou dans le maintenant, tous ceux, c'est-à-dire la plupart, 99% des gens ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire puisqu'il n'y avait pas d'école. Donc c'est vraiment, les mots de lecture, c'est vraiment pour ceux qui sont très cultivés, très lettrés, très philosophes, très experts. Voilà. Mais pour la vie quotidienne, il y a peut-être une autre façon de lire les classiques. Et aussi, mais il y a une autre manière, c'est qu'il cite en église. Quand on cite un paragraphe de Bible, les gens comprennent. Mais quand on va dans un temple tout bouddhiste, ceux qui lisent le canon bouddhiste, c'est pas pour nous, pour qu'on puisse comprendre. C'est pour qu'on puisse l'entendre. Mais on ne comprend rien, n'est-ce pas? Quel que soit notre niveau de l'intelligence, de l'intellectuel, on ne comprend pas ces textes-là quand ils lisent. Mais eux, ils sont là pour lire tout le temps, dès qu'on est là. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a, vous avez, quand j'étais arrivé, vous avez dit la lecture, c'est thérapeutique. C'est peut-être pour tous ceux qui comprennent pas. Alors, dans ce cas-là, quel que soit le mode de lecture, on ne comprend pas le sens, mais on comprend le son. C'est comme la musique classique, ça me fait sentir, mais je ne peux pas comprendre. Et ça, c'est donc ce là. Et après, moi, j'ai tiré que dans la société moderne, c'est que lire les classiques ou relire les classiques, est-ce que ça fait progresser la société? C'est-à-dire en Chine, tous les 300 ans, il y a un changement dynastique dans le sang, dans le chaos, dans la guerre complète. C'est d'ailleurs, c'est un mode de régulation qui tue à peu près la moitié des Chinois à chaque fois. Enfin, je ne suis pas pour la guerre, mais... Donc, est-ce que la relecture globale de ces classiques, est-ce que c'est pas une cause de ce changement sanguinaire ou violent, voilà. Parce que dans la société moderne, exemple, hein, quelqu'un qui doit lire le manuel d'un TGV qui contient 600 pages, mais quand il arrive à lire, à comprendre ça, il sait construire un TGV, à conduire le TGV. Mais si quelqu'un qui n'est pas constitué de TGV, mais pourquoi on lui force à lire ces 600 pages? Or, nous, on est là pour profiter du moment d'être transporté rapidement d'un point à l'autre. Enfin, c'est-à-dire dans la science, les sciences peut-être, et peut-être fait progresser mieux la société que de lire les classiques et sans comprendre. Voilà un peu mes remarques.
Vous posez des questions radicales et ce sont donc les bonnes. Donc je vais me faire l'avocat non pas du diable, mais peut-être du bon Dieu, ou en tout cas des classiques, moi, de mon côté. Tout en comprenant extrêmement bien ce que vous voulez dire, même si c'est quand même un scepticisme radical, hein, parce que vous n'allez pas humaniser la société chinoise en leur disant il faut lire 600 pages de science, mais surtout pas un texte un peu humaniste, vous voyez. Mais tout cela étant dit... Les classiques n'ont pas été écrits pour des spécialistes, mais au contraire pour une opération vraiment radicale d'humanisation. C'est ce que, enfin, une partie, hein. Mais je vais montrer que c'est même vrai pour des classiques qu'on peut considérer comme techniques. Quand Massius vous dit que les rites, c'est une question de vie ou de mort, ou qu'est-ce que ça veut dire de bien se comporter, ou ce que veut dire préférer la justice à la vie, en fait, Massius parle sans arrêt de questions de vie et de mort. Confucius aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon. C'est-à-dire, ce sont des textes qui pose des questions aussi radicales et fondamentales que la Bible ou les classiques grecs, de mon point de vue. Mais justement, la chape du temps ou des lectures un peu longues leur fait perdre des commentaires un peu longs, leur faire perdre leur acuité très souvent. Ça a été vrai aussi de la Bible. Hein. On peut lire « Voici que je mets devant vous la vie et la mort » de Théronome, dire « Oui, ben voici que je mets devant vous la vie et la mort ». Ou un jour, on peut entendre « Ah, voici que je mets devant vous la vie et la mort, choisis donc la vie ». Ce n'est pas la même chose. Donc il y a justement une façon de lire un moment qui va faire du texte une expérience. C'est pour ça que j'insiste tant. Mais laissez-moi vous donner un exemple dans un classique extrêmement technique, celui dont parlait Michel Masson tout à l'heure, le Zhuozhuan. Donc le Zhuozhuan, la langue est très difficile, il y a des textes à n'en plus finir, il m'a fallu du temps pour entrer un tout petit peu dedans. Mais j'ai trouvé des histoires extraordinaires. Voilà par exemple un général qui, sous les ordres de son commandant suprême, va envahir un pays qui a offensé son propre pays. Son commandant suprême meurt et dans la mort, il garde les yeux ouverts. Et il faut un long temps au général pour comprendre que c'est simplement en promettant à son commandant de continuer l'offensive que le commandant suprême ferme les yeux. Première histoire. Si ça allait jusque-là, ça serait pas très intéressant. Seulement, quelques pages plus loin, il nous racontait que le même général, donc fidèle à son commandant, entre dans l'état en question pour le vaincre, donc pour accomplir la promesse faite à son dirigeant. Mais le roi de ce pays vient de mourir, et donc comme c'est toujours le cas en Chine, il y a des funérailles à n'en plus finir, qui vont durer, je ne sais pas combien de temps, c'était pour les souverains, mais c'était... Voilà, enfin, tout s'arrête. Que fait le général? Il retourne en arrière. Et le Zhuozhuan conclut « lié », c'est selon le rite. C'est-à-dire que le fait de ne pas profiter de la mort du roi pour anéantir le pays est supérieur à la promesse faite à son commandant. Ben vous voyez, vous avez là une règle morale d'une puissance extraordinaire, enfin, qui peut nous dire des choses jusqu'à aujourd'hui, cette retenue. Vous voyez? Ça demande de l'interprétation, c'est pour ça qu'il faut des commentaires. Mais à mon avis, ça dit quelque chose à la Chine aujourd'hui, ça. Ne pas abuser de sa puissance ou de le rite, là, c'est savoir retenir la force. Voilà. Je pourrais trouver 1000 exemples comme ça. Voilà, mais qui veut dire que pour moi, les classiques sont une source à peu près infinie de vie, enfin d'enseignement. Ils ont besoin, comme tout texte, d'être repris et interprétés en permanence. Mais ils n'ont jamais été des textes écrits pour des spécialistes. Ils ont été écrits pour la conduite de la vie sur des questions fondamentales très proches de celles des autres civilisations. Alors qu'ils aient toujours été instrumentalisés, c'est pas nouveau. Et ce n'est pas une exception. La Bible a passé son temps à être instrumentalisée. Pour qu'elle retrouve sa force subversive, il faut certaines conditions. Hein, voilà. C'est justement à l'intérieur le rôle des véritables interprètes qui ne sont pas des spécialistes, c'est de contribuer un tout petit peu à redonner sa force subversive au texte. Voilà ma réponse très rapidement.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais dans notre collection. Parce que on parle des cinq classiques, mais on les lit plus aujourd'hui. Les traductions, c'est pas que les traductions de Couvreur soient mauvaises, loin de là. Alors est-ce qu'on peut pas, mais bon. Et oui, absolument. C'est pas non plus démesuré, sauf pour le Zhuozhuan, mais il faudrait trouver quelqu'un qui ne veut pas ce qu'il veut. Mais on pourrait le faire. Pour justement donner au public la possibilité de lire ces classiques qu'on trouve par-ci par-là, parce que c'est le qui a du succès. Traduction, de bonnes traductions, quoique ces dernières années il y en a eu une ou deux, mais on n'a pas une bonne traduction du Yijing, mais le Shang, le livre des Odes. Et des rites, tout ça demanderait, alors que c'est disponible, c'est la collection, mais bon, le texte est là, il y a des notes en latin, plus, Alors, si on avait une belle présentation avec le chinois d'un côté, le français. Alors, est-ce qu'on rééditerait et ou est-ce qu'il faudrait procéder à un projet dont il faudrait bon, des mains, mais des financements, parce que c'est du temps, et donc il faudrait pour ça. Donc je propose qu'on en parle peut-être un jour.
Bon, si je peux me permettre de te poser quelques questions quand même. D'abord, je voudrais dire que j'ai lu ton livre avec beaucoup d'intérêt. Tu penses bien que je suis un peu sceptique sur certains aspects numérologiques et je constate que tu fais ce travail-là d'abord sur le Huainanzi et en se référant aussi au Lushu. Proches et dans leur date et dans leur construction. Et tu dis toi-même à la page 233, le Huainanzi constitue peut-être un cas extrême. Je dis tout ça non pas pour dénigrer ce travail, cette réflexion sur une nouvelle façon de lire, parce que c'est quand même très intéressant. Il faudrait faire une lecture aussi approfondie que la tienne pour pouvoir vraiment entrer en dialogue avec cette méthode. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est simplement les anecdotes que tu as racontées ce soir de Mencius et puis à l'instant du Zhuozhuan, pour moi, sont quelque part plus percutants hein, pour ce qui nous donne de la pertinence, justement, de ces textes. Et voilà, donc ça, c'est juste une réflexion générale. Et il y a une deuxième suggestion. Que j'aimerais bien connaître. C'est une autre façon d'aborder ces textes, pas classiques, mais donc, comme tu dis, des textes anciens. Et c'est par le genre littéraire. Oui. Parce que il y a un groupe de textes qui est composé de textes courts qui sont des loggia, comme le Lunyu, d'aphorismes comme le Laozi, ou comme anecdotes, comme le Mencius et le Zhuangzi. Et je pense que ces quatre textes-là, ils ont tous beaucoup en commun, comme les trois autres textes de la philosophie pré-impériale, Mozi, Hanfizi et Shunzi, sont tous des essais. Or, c'est remarquable que les trois personnes qui écrivent donc des essais, le genre littéraire de l'essai, croient tous que la nature humaine est mauvaise. Je pense que c'est quelque chose... Shunzi, Hanfizi et Mozi. Donc les trois essayistes, il ne dit pas ça. Oui, mais il a besoin des dieux. Donc, je pense que ça c'est quelque chose qui mériterait comme de constituer un mode d'approche de ces textes qui les met ensemble de façon. Bon, j'ai deux questions. Je voudrais dire que tu as cité tout à l'heure, en fait, c'est de la page 164 sur les rites, et la partie un peu plus haut sur la même page, je voudrais juste lire un peu pour les autres qu'ils en profitent aussi. Aussi, le rite possède-t-il de nécessité sa racine dans le grand un, lequel, en se divisant, est devenu le ciel et la terre, ces derniers en tournant, donné le yin et le yang, et cela... avant les actives, les quatre saisons. La succession des saisons actives à son tour, mains et esprits, et ainsi de suite, ça continue. Et donc, ça déploie les rites à partir de cette source dans le grand un. Exactement, voilà. Donc, ça, c'est un des plaisirs dans ton texte. Il y a énormément de traductions très belles et de textes très, très importants. Donc, merci pour ça. Plus bas, je pense que c'est, je ne sais pas si c'est de Fingeret ou pas, mais tu dis à la page 166, la rencontre du lit et du jeûne, donc le lit en tant que rite et le jeûne, l'humanité, correspond donc à l'alliance parfaite du naturel et du culturel. Je pense que ça, c'est de toi. Hein. Alors, je voudrais juste à cet égard te lire un passage d'Abraham Heschel, qui, à mon avis, permet de éclairer ces rapports entre le li, qui est souvent traduit par loi, ou qui remplace la loi, et donc ce terme jeune, charité, humanité. Voilà ce qu'il dit Heschel. I am not always in a mood to pray, but when I am weak, it is the law that gives me strength. Donc les rites, ce qui est imposé par la Torah. When my vision is dim, it's duty that gives me insight. Donc voilà, juste une petite réflexion sur une possible... Et ça a trait aussi à ce que tu dis tout à fait à la fin, et j'aimerais que tu le commentes un peu pour tout le monde. Tu dis... Oui. À la page 232, nonobstant ces limites, notre lecture nous amène donc à suggérer que la rhétorique chinoise partage avec la rhétorique sémitique un goût prononcé pour la binarité, parallélisme, et un sens aigu de l'accomplissement, circularité. À propos de circularité, je voudrais simplement dire que j'ai travaillé sur un texte encyclopédique de Wu Shangbiao, donc du VIe siècle, et c'est tout à fait, ça correspond tout à fait à cela. On commence par le Da Dao, et on finit, après une chute jusque dans les enfers, à remonter par la pratique religieuse jusqu'à retourner au silence. Donc, cette circularité du texte. Et l'accomplissement, quelque chose. Ce que je voudrais dire et suggérer, c'est que ce parcours circulaire n'est pas qu'un parcours circulaire. Et cette structure en ABC, et puis, etc., que tu utilises aussi, en fait, j'ai fait une analyse similaire de la messe, et je pense que ce que l'on peut montrer, c'est qu'en fait, c'est une sorte de symétrie asymétrique, c'est-à-dire que le début et la fin, il y a une dynamique qui, en fait, est le vecteur du changement que les textes induisent dans les lecteurs. Hein. Donc, ce n'est pas juste circulaire d'arriver à la fin.
Ah.
Mais, d'accord. Bon, et pour finir, j'ai quand même deux. Tu évoques le texte du Lao Tzu du Ma Wangdui et le fait que c'est inverti, c'est pas le Dao de Jing, mais le de Dao Jing. Mais dans d'autres endroits dans ton texte, tu parles fait qu'il y a le Dao d'un côté, le Kao, et puis il y a les Shi de l'autre côté, du Ne et des Wai. Et c'est très clair que le Dao représente le Ne. Et le Wu, n'est-ce pas, dans le Lao Tzu, et l'autre représente le Yo. Et c'est-à-dire qu'on pourrait dire que ça représente les deux dimensions du Shengren dans le Lao Tzu, qui est, comme on sait, très ambigu. C'est-à-dire que ça peut être le sage, l'individu sage, le philosophe, l'amateur de sagesse et de pratique de longue vie. Et de l'autre côté, c'est l'empereur, le fils du ciel. Et donc, le rapport, comme tu le dis, à plusieurs reprises, entre le Dao et le De, c'est-à-dire, donc, je dirais, le monde spirituel et le monde externe politique, le Ne et le Wai, dit très clairement que cette version de Ma Wangdui est une version du pouvoir. Et c'est pour ça que ça paraît sous les Han. Et donc, je pense que toute cette discussion sur le Dao de Jing, est-ce que ça devrait être le De Dao Jing parce que c'est le texte plus ancien, à la limite de la folie. Parce que ça veut dire qu'ils ne comprennent pas le rapport entre le Dao et le De, le non-manifeste, l'invisible et le visible. Tu serais d'accord avec ça?
Je vais essayer d'expliquer aussi, d'expliquer à nos auditeurs qui doivent être un peu perdus sur ta dernière question. La lecture de la version Ma Wangdui n'est pas quotidienne. Voilà, alors je voulais dire... Qu'est-ce que je voulais dire à partir de tout ça? Bon, ben, parlons un peu du Lao Tzu, puisque c'est le plus important. Le Lao Tzu est donc quand même le texte peut-être le plus important de l'époque, puisqu'il est de loin le plus répandu. Voilà. Donc le Dao de Jing peut être traduit par la voix, le livre de la voix et de sa vertu. La vertu, c'est la puissance. Hein. L'image fondamentale, c'est celle du cours d'eau. Effectivement, l'intérieur, le nez, le cachet, qui va donner naissance à des expressions du caractère bénéfique de ce cours d'eau, c'est-à-dire à des plantes. Ça, c'est le deux. Voilà. Et le Lao Tzu va travailler ça jusqu'au bout, avec des métaphores aquatiques, qui ne sont pas partout. Par exemple, le Huainanzi va faire la même chose, mais en substituant la métaphore aux plantes, celle de racines-branches. Voilà. Peut-être parce que la métaphore aquatique est devenue trop courante à l'époque. Enfin, il faut un peu renouveler la chose. Voilà. Donc, à partir de là, en revanche, John me dit, le Dao, c'est l'intérieur, le De, donc la puissance, c'est l'extérieur. C'est très important pour les Chinois. J'ai lu récemment une très belle phrase de René Dommal dans Le Mont Analogue qui dit « La porte de l'invisible doit être visible ». C'est-à-dire, c'est en fait par la, le De, par la puissance, les manifestations du Dao, que vous entrez dans le domaine de l'invisible. Et le seuil entre les deux, c'est ce que le Lao Tzu appelle le Wei, l'imperceptible, ce qui est difficilement imperceptible, ou la couleur du Shuen, qui est la couleur du crépuscule qui est en train de se fondre dans la nuit. Donc il faut être attentif au seuil entre l'invisible et le visible. Hein, c'est ça. Il y a une porte visible, il n'y a pas un invisible qui est totalement inaccessible. Mais il faut être attentif. Voilà, ça c'est le rapport entre deux A ou deux. Là-dessus, avec John, on est tout à fait d'accord. Maintenant, il a dit très rapidement quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, mais on ne va pas discuter ce soir. Il m'a dit le Dao, c'est le Wu, ce qui est l'une des interprétations. Et c'est pour ça que ce texte et la question des commentateurs est très important. Donc, le Dao serait le « il n'y a pas », tandis que le Wu, tandis que le De serait le « il y a », le Yo. Ok, j'aime bien traduire ces termes par des formules grammaticales plutôt que par des concepts. Il y a, il n'y a pas. Alors, c'est ce que refusent beaucoup de commentateurs, à commencer par Wang Bi. Le Dao, c'est le Wu et le Yo. Voilà, voilà, exactement. Donc, il n'y a pas une partie Wu, il n'y a pas une partie Yo. C'est ce que je veux dire. Dans le Dao de Jing, il y a une partie Ne, il y a une partie Wai, il n'y a pas donc une partie interne, une partie extrême, il n'y a pas une partie Nia, il n'y a pas. C'est deux choses un peu différentes, liées mais différentes. Donc, à partir de là, la question, il y a des versions qui mettent d'abord la partie expression visible du Dao, donc le De, et d'autres parties qui mettent, notamment la version reçue, qui mettent d'abord le Dao et après le De. C'est une distribution de chapitres. Une grande partie de ces chapitres, comme le disait Marc, on va les trouver dans la plupart des versions. Certaines, soit par corruption du texte, soit par le fait que ces seuls chapitres existaient à l'époque où le texte est écrit, n'en comprennent qu'une partie. D'autres, comme la version de Pékin, plus récente, ou le Guodian, d'ailleurs. Non, le Guodian, c'est les... Oui, le Guodian, tu disais les deux tiers, je crois que c'est moins que ça. Ma Wangdui, c'est plus des deux tiers, c'est presque complet. Voilà. L'une des Ma Wangdui est presque complète. Voilà. À partir de là, donc, il y a un énorme débat pour savoir laquelle vient la première. Moi, ce que je dis simplement dans mon livre, c'est que ça n'a aucune importance, justement parce que la chose est circulaire. Voilà. Donc on peut commencer par l'un ou l'autre aspect, mais qu'on dit toujours la même chose, mais en l'approfondissant et la creusant. Alors voilà, je me souviens ce que je voulais dire en réponse à ce que tu dis. Bien sûr, une pensée circulaire est une pensée qui va plus loin. C'est pas une pensée qui se répète tout le temps. Le plus bel exemple qui est donné de ça, c'est dans le Huainanzi, chapitre 7, où je pense que la structure même du livre, entre autres, est expliquée. C'est le passage de l'embryon jusqu'à un petit bébé. Comme on sait, en Chine, ça dure 10 mois. Voilà. Donc, au premier mois, c'est le chiffre 1, voilà, la naissance d'un nouveau, et puis il croît, il se met à trépigner, il se complexifie, etc. Et donc, on va attacher des qualités, toujours le qualitatif, au premier mois, au deuxième mois, au troisième mois, au quatrième mois, au cinquième mois, au sixième mois, au septième mois, au huitième mois, au neuvième mois, et au dixième, le 1. Ben oui, c'est le retour à l'un, sauf qu'il y a une personne de plus sur la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est accompli, mais il y a eu un surgissement. Hein, voilà. Et ça, ben oui, c'est le retour du 10 à l'un, sauf qu'il y a une nouveauté qui s'est passée dans ce retour-là. Hein, voilà. Donc oui, une pensée circulaire est une pensée de la création, effectivement. Ce n'est pas du tout une pensée de la répétition. Et je crois que je m'arrêterai là. Oui, vas-y.
Une minute. Il y a le temps.
On a des interprétations différentes du Dao de Jing. C'est bien, c'est formidable. Alors, je ne vais pas défendre ma position, je vais donner au contraire un indice qui renforce la position de Marc, même si je ne la partage pas. C'est que dans les textes, dans beaucoup de textes, on ne parle pas du Dao de Jing, on parle du Dao Jing et du De Jing. C'est très fréquent. C'est-à-dire, on sépare en fait le traité en deux, le Dao Jing et le De Jing. Même le Mozi, donc le traité pour dissiper les doutes, fait ça, par exemple. Donc, très tard. J'ai des raisons pour penser quand même que ça fait un tout, au contraire, inséparable, et qu'il s'habille bien le deux du Dao. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une aberration. Franchement, honnêtement. Mais il y a certainement des interprétations profondément différentes, là. Mais moi, je crois profondément à l'unité du Dao de Jing. Ça parle de la même chose sous deux aspects. D'accord.
Ça, voilà. Oui. La vertu, le deux, c'est,
Oui.
C'est pas la vertu du Tao, là.
Ben oui, mais elle émane du Tao.
D'ailleurs,
elle
émane du châtiment que au Tao.
Oui, mais elle ne peut émaner que du Tao. Enfin, à mon avis, justement. Oui, justement, parce que.
Par vertu,
mais ça, c'est. Non, mais c'est pas autre chose. Moi, je vais te dire où je pense qu'il y a le changement. C'est que justement, dans les textes, dans les cinq classiques, le deux est donné par le tien. Mais que justement, l'innovation philosophique fondamentale de ce qu'on va appeler, pour faire rapidement, l'école taoïste, ou disons d'un courant qui surgit à un moment, c'est de remplacer le tien par le Dao. C'est-à-dire de donner la primauté au Dao sur le tien. Mais de rapporter le Dao, le deux au Dao comme il était rapporté au tien. Mais je pense qu'on va s'engager dans ce débat qui va épuiser notre auditoire, là. Non, mais je n'ai jamais traduit le Dao de Jing, donc je n'ai jamais traduit. Mais je pense à le rapport entre les deux. Les gens sont fatigués. Voilà.
Bon, donc, merci beaucoup. Il est 9h, c'est donc l'heure de se quitter. Merci encore beaucoup à Benoît et à Marc.
C'est un bon débat.